Écoute, je crois en plus que les lumières sont revenues là.
Alors j'adore, j'adore. Et ça c'est le charme de Twitch. Voilà, alors je vérifie sur mon petit retour que tout est OK pour moi. Voilà, on est de retour. Vous pouvez faire des petits F5 à la maison et puis faire passer le message. F5 dans le chat.
Fou F5 tout le
hein,
monde.
c'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les habitués de la chaîne le savent. En tout cas, l'ont soupçonné, l'ont deviné. C'est un des enfants, en l'occurrence, c'est Malo. Qui, sans le faire exprès, parce que parfois ils font exprès, sans le faire exprès, est venu se faufiler derrière le pauvre Mathieu qui venait de dire si ça marche pas ce soir, c'est à cause de moi. C'est pas la faute de Mathieu, c'est Malo qui s'est faufilé. Il voulait attraper des petits crayons, des petits ciseaux pour enfants pour faire des travaux manuels et il a débranché la multiprise.
Voilà.
Donc non. Les lumières, le PC, la table de mixage, tout était branché là-dessus.
Ce n'est pas ton compteur Linky
non.
qui a décidé que...
J'en ai pas. J'ai pas de Linky. Wow. Faut pas le dire à Enedis. J'en ai pas. Ils veulent, mais...
redémarrage très rapide. Hein.
Bah Mathieu, bravo.
Franchement,
hein.
ouais. Et les lumières sont revenues, là. On a la bonne balance des blancs et tout. Hein. Nickel.
Voilà, donc on parlait du micro, donc voilà. Et moi, ce que je voulais savoir avant que tout se crache, c'est qu'est-ce que vous pensiez de ce nouveau son? Et avec Jérôme, avant de lancer le stream, on a écouté, parce que Jérôme, évidemment, s'intéresse à la tech. On va parler de sa chaîne aussi, Naotech, dans un instant. Et ben, on l'a trouvé que le son était un peu plus. Moi, je le trouvais plus clair, mais aussi un peu plus métallique, un peu
un
plus numérique.
Un petit peu plus
disais.
Numérique, c'est une question après de goût, puis ça dépend des voix aussi. Ça, c'est des micros plus anciens, plus ronds, mais ça fait un autre type de voix, quoi.
Ouais, moi j'aime bien.
Rien.
Moi j'aime bien.
Je connais rien du tout. Donc,
Moi j'aime bien. Vous en pensez quoi, vous, à la maison? Ouais, on va faire la commande guest, vous avez raison. Un petit peu trop fort, ça sature. Oh, je sais pas, c'est peut-être moi qui parle trop fort. Ouais. Peut-être un peu. Je suis un peu trop fort par rapport aux invités. Alors il y a un truc aussi que j'ai pas fait. Tiens, alors déjà, je vous ai pas apporté à manger alors que c'est prêt. Et puis j'ai pas programmé mon petit Nightbot. Alors on va le faire en direct. Parce que j'ai un petit robot qui, quand on tape une certaine commande dans le chat, donne des infos. Okay. Sur, par exemple, sur si vous tapez point d'exclamation modération, vous avez un peu les règles de la modération ici, ce qu'on essaie de faire. Et y a aussi une commande qui est point d'exclamation guest, et en fait, qui donne le nom des invités à n'importe quel moment, sauf que j'ai oublié de la remplir.
Voilà. Écoute, voilà.
Et ça, j'adore. Donc, on y va.
Surprise, vous allez devoir deviner quoi.
Ouais. Voilà. Alors, attends, guest, elle est là. On va la modifier. il y a Rodélia, nous qui cherche les enfants, qu'elle en a perdu un, j'adore. Les invités
sont. Il est près de la
sont...
multiprise.
On va le faire en direct. Ah bah, du coup, comme ça, on va commencer à présenter. À ma droite, vous avez Camille et Étienne. On va en parler, mais aucun lien de parenté. Puisque
ouais,
donc...
Il y a eu beaucoup de questions. Hein,
là. Ah oui. Vous étiez en trending
avec
topic. Hein.
Aussi.
Je mets activiste pour le climat. Hein, Camille.
Ça me va très bien. Hein, c'est parfait.
Activiste pour le climat, Camille et Étienne. À ma gauche, Jérôme Kainborg. Est-ce que je pense bien, Jérôme?
Oui. C'est même assez admirable parce que généralement, c'est écorché dans tous les sens.
Kainborg. Là, je mets Naotech, qui est le nom de ta chaîne sur YouTube et sur Twitch.
Ouais, Naotech Team sur Twitch parce que Naotech était squatté.
Donc Naotech. Et là, tu veux, je mets quoi?
Parce que, non, mais Naotech, c'est bien. Oui, tu tapes Naotech.
Et attention, les choses difficiles commencent avec Michael.
Vas-y. Alors, si t'arrives à l'écrire du premier coup,
Michael,
c'est incroyable.
Déjà, ton prénom, c'est CH, ça, je sais.
Ouais.
Alors, de mémoire. Avec les lettres
S-Z-A
D-K-O-W-S-K-I.
Incroyable.
Wow,
et ça
bravo.
Se prononce Chatkowski.
Incroyable. C'est voilà. Parfait, merci.
Les invités ce soir sont Camille Etienne, activiste pour le climat, Jérôme Kainborg de la chaîne Naotech et oh, Michael Chadowski, le titre du je fais court, c'est directeur de la rédaction du HuffPost, du Huffington Post, excellent site d'information que je vous recommande. Et là je mets HuffPost. Et vous savez quoi? Eh ben la commande guest, elle est prête. C'est mignon parce que c'est le chat qui m'a dit qu'il n'y avait rien à bouffer, tout est au frigo. Et c'est le chat qui m'a dit « T'as pas fait la commande guest
voilà. !»
Et là, Camille comprend pourquoi les intros durent une heure ici.
Oui.
Parce que
l'invité,
il a tout oublié, la bouffe, le truc, il a oublié le nom du micro, il n'a pas fait le bot, les enfants passent, débranchent tout. Même Mathieu, qui est là pour la première fois, il se dit eh, « C'est marrant ici, c'est un peu spécial comme stream, c'est un peu fait... Hein. »
Oh. Et alors j'avais une question pour Camille. Ouais. Je peux commencer pour les introductions.
Oui.
Activiste pour le climat,
ah.
C'est-à-dire
qu'est-ce que tu fais? Journaliste, hein. non, qu'est-ce que je fais? Plein de choses, mais en gros, je travaille, disons, sur des sujets plutôt précis en ce moment. Notamment, par exemple, là, l'exploitation minière en eau profonde. En gros, on a des scientifiques, des biologistes qui viennent nous dire, bon, bah, là, ça craint. D'ici juin 2023, en fait, les gouvernements sont en train, et les États sont en train d'autoriser d'aller défoncer les fonds marins parce qu'on y a trouvé des minerais bah, utiles pour nos téléphones, entre autres. Et donc, du coup, ils me disent, mais on est super inquiets parce que les premières études, elles montrent que ça peut à la fois bah, avoir un impact de ouf sur tout l'écosystème marin, dont on dépend, nous, après, pour se nourrir, mais aussi libérer le carbone qui est séquestré dans le sol. Mmh. Et en fait, on parle beaucoup de la forêt comme principal poumon pour la Terre, mais en réalité, c'est quand même les océans d'abord, c'est plus d'un tiers du CO2 qui est émis. Donc bref, tu vois, il y a ce sujet-là où ils disent, ok, on est un peu inquiet parce que, en fait, ça pourrait, en allant creuser dans les fonds marins, relâcher le carbone, qui ensuite va dans l'eau, carbone plus O2, ça fait CO2, on en a déjà assez dans l'atmosphère. Donc, je prends cet exemple concret pour t'expliquer que, tu vois, il y a ce truc-là, on se dit, c'est un sujet, ça va arriver bientôt. Aucun média n'en parle parce que c'est pas de l'actu brûlante. Comment est-ce qu'on obtient des victoires concrètes politiques? Donc là, bah, ça peut vouloir dire aller en parler dans les médias. Faire des vidéos de décryptage pour expliquer sur les sociaux, en gros, ce qui s'y passe. Mobiliser par l'affect, donc organiser on a fait des happenings de danse devant le siège de l'ONU à Lisbonne sur le sommet de l'océan.
T'as vu, je me rappelle d'un clip aussi où, dans la montagne.
Ouais, ça c'était pas sur... ça c'était incroyable. En fait, quand je dis sur l'affect, c'est utiliser aussi l'art parce que juste déjà j'adore. C'est... Enfin, l'art, ça paraît être un grand mot, mais mes meilleurs amis sont tous un peu. Enfin, mon meilleur ami est réel, il s'appelle Solal, et on s'est retrouvés confinés avec lui et son coloc qui était chef d'orchestre et la copine de son coloc qui était danseuse et on était à quatre dans mon chalet pendant de longues semaines comme vous, ça a été un peu long et en fait j'avais cette chance quand même d'être dans les montagnes et au bout d'un moment on s'ennuyait donc on s'est mis, moi j'ai écrit un texte après avoir vu la série Years and Years d'ailleurs je vous la recommande, elle est incroyable,
elle est géniale,
elle est oufissime, quand tu la regardes maintenant c'est hyper flippant parce qu'il parlait de la pandémie,
vous
parlait
ouais. Je connais pas,
c'est une série anglaise
d'anticipation
d'anticipation, mais très proche de maintenant. Donc,
ouais,
c'est ça qui est.
Years and Years.
Il y a genre 6-7 épisodes, mais c'est.
Ça fait bader, hein.
Ça fait bader.
Mais c'est incroyable d'anticipation.
Mais en même temps, c'est. Ouais, et ben, bref, il y avait ce moment-là. Il y a un moment hyper fort où. Je spoil rien, mais il y a la grand-mère qui engueule un peu les gens en disant, mais c'est votre faute, en fait, si le monde se délite, c'est vous qui avez acheté des t-shirts à 1€, fait par des enfants et tout. Enfin, bougez-vous un peu. Et ça a fait vraiment un électrochoc chez moi parce que c'était. Exactement l'inverse de ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire de pas culpabiliser les gens, d'être sur un truc. Et là, en fait, je me suis dit, bah ouais, en vrai, elle m'a un peu genre réveillée, ça me donne envie de faire de l'action. Donc j'écris un texte, et après, on l'a filmé ça, et on a rajouté de la musique dessus parce qu'on avait un chef d'orchestre, une danseuse, enfin, bon. Donc du coup, ça, c'est un peu la partie artistique qui est des fois hyper utile pour mobiliser aussi des gens qui sont pas forcément sur le climat et tout, mais ils vont regarder parce qu'on va parler danse, parce qu'il va y avoir de. Et qu'en travaillant avec des neurologues, on se rend compte que. Quand on donne une information qui n'est pas uniquement rationnelle, c'est pas exactement le même côté du cerveau que quelque chose qui va nous toucher. Et il y a tellement d'informations, on est saturé d'infos toute la journée, qu'elles glissent un peu parfois sur nous et qu'on va retenir ce qui nous a vraiment touché. Donc pour moi, c'est un mode d'action particulier. Et puis pour pas être trop longue, mais après il y a aussi les actions directes de désobéissance civile. Et tu vois, par exemple, on avait bloqué l'Assemblée Générale de Total Energy. C'était trop drôle, c'était incroyable, ça avait trop bien marché. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, tu vois, sur un sujet précis, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire? On en parle, on mobilise la société, on rend ça comme inévitable dans la sphère politique. Et après, il y a la partie lobbying politique que j'adore. Genre là, aller rencontrer le ministre de la mer, aller au sommet de l'ONU dans les négociations sur les océans, tout ça, pour porter la parole aussi des citoyens.
Donc, question de Kenny Nours, pour toi Camille. Qui finance ce travail? C'est-à-dire que comment tu en vis?
Ouais, on en parlait juste avant que vous arriviez.
Bah, je posais déjà une question sur le business model.
J'ai raison. Alors, le business model est très nul quand on il faut savoir.
Comme celui de cette émission. Voilà. Merci pour vos subs. C'est pour ça qu'il n'y a pas à bouffer ce soir, d'ailleurs.
Voilà,
moi, je commence à avoir faim. Hein.
Ma prof d'éco m'en voudrait beaucoup.
Ah ouais
non, mais en fait, moi, j'ai cette chance quand même. Du coup... Je peux pas. Enfin, c'est vraiment une chance immense, c'est d'avoir une petite notoriété qui me permet de donner des conférences aussi. Donc ça me paye, moi, ça paye un peu mon loyer. Après, je suis vraiment troubadour. J'ai le statut d'intermittence du spectacle. Je fais des petits spectacles où j'interprète George Sand, voilà, pour avoir des cachets d'intermittence aussi. Donc c'est assez drôle. Je fais des voix off. sur des films des fois qui n'ont rien à voir, genre des films d'animation, enfin, mais ça je le dis pas du tout, du coup c'est assez marrant, j'ai une double vie parfois. Ça c'est plus moi pour payer mon loyer et après pour tout ce qu'on va faire, parce que ça coûte de l'argent en fait d'organiser, enfin de faire des vidéos, la prod et tout, c'est hyper cher. On a quelques mécènes et là on va lancer un sorte de financement participatif pour qu'on puisse être indépendant et qu'en fait ce soit vraiment les gens qui nous soutiennent.
C'est vachement bien.
Ça c'est cool parce que ça nous permet de pas devoir travailler forcément avec des marques avec lesquelles on n'est pas d'accord.
Attention, il y a Malo qui est près de la multiprise.
Ça devient
Malo pas deux fois parce que après les gens ça les fait rire une fois, mais parce qu'en fait pour ceux qui viennent d'arriver, Malo mon grand tu sais que je t'aime fort toi.
Bon bah voilà.
Bon bah
ça c'est fait.
Voilà.
Là on meuble.
Bonsoir.
Mathieu. Et en fait oui, alors pour ceux qui viennent d'arriver, Malo on lançait depuis 4-5 minutes, est venu chercher un truc dans l'armoire derrière Mathieu qui réalise ce soir et puis il a mis le pied sur la multiprise et tout a sauté. Voilà. J'adorais. Là, il est venu nous faire un petit coucou.
Ça n'a pas duré longtemps.
Ici, on ferme jamais la porte aux enfants. Je trouve qu'il faut pas fermer la porte aux enfants. Ils ont le droit de satisfaire leur curiosité. Du coup, c'est des streams souvent interrompus, quoi. Mais c'est intéressant la question sur le financement parce que ici, on est avec un public qui s'intéresse à l'actualité, mais qui aime aussi connaître les ressorts derrière.
Ouais, je comprends.
Par exemple, moi, je leur vends la presse écrite et souvent, on me parle du. Oui, mais comment elle est financée cette presse écrite? Qui possède ce journal? Quel est le... Et vous avez raison de vous interroger là-dessus parce que la propriété capitalistique d'un média ne suffit pas à l'analyser, mais c'est un élément important. Et là, la question avec Camille, elle est.
J'appartiens à Pouyanné, en fait. C'est lui qui me finance, Patrick Pouyanné, PDG Total. Non, je rigole.
Révélation
incroyable. Il a vraiment paniqué, les dans mon verre
sur Twitch, tu sais, il y a une fonction qui s'appelle clipper, donc gaffe quand même.
C'est vrai, tu imagines l'extrait après. Non, ce n'est pas vrai, tout va bien.
Non, donc on va vers un financement participatif.
Ouais, je pense parce que ça nous permettrait de structurer, vu que là, je reviens, on a tourné une vidéo sur l'Ukraine et le lien entre l'Ukraine et l'énergie fossile. Mmh. Et on est dans l'appartement de Solal à Noisy-le-Sec, dans son salon avec ses colocs. On dit, s'il vous plaît, on va refaire une prise. Enfin, c'est hyper drôle, mais c'est assez limite aussi. Donc, si on veut continuer, je pense qu'on ira vers ça, ouais.
Deux réponses à vos questions pour que vous soyez moins perturbés, parce que Camille nous parle de Solal depuis tout à l'heure.
Oui.
Et Solal, c'est aussi le nom de mon petit dernier. Et les habitués le savent.
Ils doivent vraiment se dire
que c'est la famille qui fait partie de la famille, quoi.
Et les gens sont en mode, mais mytho, Solal, il a 2 ans, il a pas d'appartement, il n'est pas réalisateur.
Réal de talent.
Alors, c'est pas le même Solal, mais du coup, c'est un problème qui me touche parce que je pense que peut-être que c'est pas. L'ont choisi pour les mêmes raisons que moi. Enfin, en général, c'est une origine littéraire. Voilà. Et donc, pour répondre à la deuxième question que j'ai beaucoup vue ces derniers jours, notamment sur Twitter, c'est Camille, Étienne n'est pas de ma famille. Voilà.
Et oui.
On n'est pas liés.
On aurait pu me faire croire un peu, ce serait drôle, hein, quand même, d'avoir laissé la.
Je crois
non,
pas.
Non,
hein.
Ni de Jean-Louis Étienne, mais toi.
Ni de Jean-Louis Étienne, qui est l'explorateur, non plus.
Toi non plus, t'as pas de
non,
lien.
Non.
Comme quoi, les Étienne.
En fait, Étienne, c'est un peu Dupont, quoi.
C'est un peu commun. Mais moi, souvent, on me demande, toi, j'imagine encore plus, Étienne, c'est le nom ou c'est le prénom?
Oui, ah ben, tout.
Oui, mais à l'ami, toi, ça fait sens. Moi, Camille Etienne, je veux dire, bon.
Ouais, ouais. C'est que, je pense que les gens qui te posent la question n'ont pas réfléchi trop longtemps.
Mais ça m'arrive vraiment au moins une fois par semaine.
Ouais.
Ah ouais.
C'est petite mais confession oui. des choses difficiles.
Jamais ce problème.
Non, vraiment. Je pense qu'on est toi encore plus que moi.
On n'est pas époux, on n'est pas frère et sœur, on n'est pas cousin. Peut-être cousin éloigné, on ne sait pas. Moi, j'ai des origines bretonnes depuis très longtemps, Camille.
Moi, c'est savoyard, vraiment, purge, quoi.
Alors, Est-Ouest, à mon avis, Savoie, Bretagne, non.
Il va falloir faire le deuil de cette idée.
Connaissant la mobilité géographique du paysan breton, parce que je viens d'une famille d'agriculteurs, au 20e, au 19e siècle auparavant, à mon avis, on ne doit pas être cousin-cousin. Ou alors depuis... Bon, ben voilà pour Camille. Petite présentation brève, parce que je pense que Camille, rien que pour se présenter, parler de ses actions, on pourrait faire 3 heures. Mais on aura l'occasion d'en parler, parce qu'on va pas mal parler d'environnement ce soir avec nos premiers thèmes d'actu. Continuons les présentations. Moi, je me présente plus, vous savez. Voilà, éleveur d'enfants, principalement, puis je fais des autres petits trucs. Jérôme.
Oui.
Jérôme, je t'ai connu sur Twitch parce que tu as une super chaîne que tu animes avec, tu n'es pas tout seul, 2 autres personnes.
2 autres personnes, ouais.
Qu'on va citer.
Marion et Guillaume.
Alors, une chaîne qui s'appelle Naotech. Précisément, sur Twitch, elle s'appelle...
Alors, Naotech Team sur Twitch et sur YouTube, c'est Naotech. Historiquement, on est une chaîne YouTube et on s'est mis à... Alors, des lives, on en fait depuis longtemps, mais des lives sur Twitch, on a commencé comme beaucoup de monde, premier confinement.
Parce que vous avez commencé sur YouTube, effectivement, et moi, je vous ai connu sur Twitch, et après, j'ai découvert l'univers. Naotech, c'est une chaîne qui parle de la tech.
Exactement, de la tech au sens large. C'est vrai que la tech aujourd'hui, ben, ça touche un petit peu tous les sujets. C'est profondément intégré dans nos sociétés, dans nos vies,
dans
l'écologie.
Au sens large, c'est-à-dire, moi, je sais que moi, j'aime bien venir sur ta chaîne parce que qu'on est curieux. Enfin, il y a plein de choses. Vous parlez des produits. Vous parlez des tendances, vous parlez des révolutions technologiques.
On essaye d'aller de plus en plus aussi vers des dossiers, des vrais dossiers, parce que bah, y a autre chose dans la tech que juste des smartphones et des produits de consommation. Ouais. Il y a des implications au niveau de la vie privée, il y a des implications bah, au niveau de l'écologie, niveau on en reparlera.
Au niveau de la vie sociale.
Au niveau de la vie sociale. Comprendre, moi, je suis passionné aussi de comprendre... comment fonctionnent les entreprises? Une de nos dernières vidéos, c'est pourquoi Apple c'est si cher. Donc j'essaye de décortiquer un petit peu ce qu'il y a derrière un prix et comment on calcule un prix.
Tiens, d'ailleurs, en 10 secondes, pourquoi Apple est si cher? Je pense que c'est une question qui intéresse.
Bah, déjà, qu'est-ce que si cher? Non, ce qui était le plus intéressant dans cette vidéo, c'est après ce qui était les commentaires que les gens ont laissés, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'Apple c'est trop cher, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont un SAV qu'aucune autre marque n'a.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on peut réparer. Et la durabilité des produits Apple, même s'ils ont eu un bad buzz à une époque, c'est des produits qui durent longtemps en technologie. Et Apple va quand même de plus en plus dans ce sens-là. Alors, ils font plein de faux pas, il y a du greenwashing aussi. Mais quand même, Apple a un peu compris vers quoi on se dirigeait, donc c'est intéressant à suivre.
Et puis Michael disait, en plus on achète, donc il serait bête de se gêner si on l'achète.
Ça, je pense que ça, il y a des acheteurs très raisonnables qui achètent du Apple parce qu'ils savent qu'ils vont le revendre très bien, que c'est des produits qui peuvent avoir une seconde et une troisième vie, et que le prix d'accessibilité est très cher, mais l'Argus reste très haut. Et même quand tu transmets dans une famille tes objets technologiques, le Apple, ça dure longtemps. À côté, tu as des smartphones très peu chers, mais il n'y a plus de mise à jour au bout de 2 ans. Ah, aucun SAV, aucune réparation. La batterie tombe en panne, ils jettent tout ça à la poubelle. Donc voilà, c'est intéressant de
En tout cas, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur ta chaîne. Du coup,
oui,
hein,
on peut trouver sur la chaîne YouTube. Ouais.
Michael.
Ouais.
Alors, bah, Michael, c'est sa deuxième fois.
C'est vrai.
D'ailleurs... tu es le premier qui revient pour la deuxième fois.
Waouh.
Parce qu'au début, donc c'est la 7e émission. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, peut-être que certains vont avoir plus de plaisir que d'autres. Et on va essayer, peut-être qu'on va créer une espèce de noyau dur de 3, 5, 6, 10 personnes qui vont revenir régulièrement. Mais au début, je me suis dit, ben, recevons plein de gens un petit peu différents. D'ailleurs, à ce jour, je n'ai pas choisi de modèle. D'ailleurs, est-ce qu'on ne va pas sans arrêt inviter de nouvelles personnes pour ouvrir nos horizons? Je ne sais pas encore. Mais Michael, c'est la première fois que je reçois quelqu'un pour la deuxième fois.
Écoute, j'en suis ravi et je reviens. Alors que la dernière fois, si je me souviens bien, tu nous as servi à la fois du rosé pas bon, puis du vin de pissenlit, mais qui était une découverte.
Du vin de pissenlit.
Et oui, alors en fait, l'histoire est géniale. C'est parce que j'avais voulu rogner sur le budget. Parce que voilà, comme je le disais avec Camille tout à l'heure, c'est que le modèle économique de cette émission est désastreux. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai voulu rogner sur les coûts fixes. Hein, donc, j'ai acheté un rosé, mais vraiment un rosé pas cher, quoi. Vraiment bas de gamme, en me disant, ça va passer, quoi. Je le débouche, on le goûte. Oh, le truc, genre, le mal de tête obligatoire, quoi. Et donc, je vois les invités essaient de donner le change, mais je vois bien que ça grimace un peu, quoi. Et je sauve le truc avec une bouteille de vin de pissenlit. Offert par une candidate de Question pour un champion qui le faisait elle-même dans son jardin avec des pissenlits, c'est-à-dire qu'elle voulait pas jeter ses pissenlits. Elle allait chercher une recette sur internet, elle a fait macérer ses pissenlits et ça a donné un vin un peu sucré type Sauternes.
Franchement, mais donc je suis revenu parce que
grâce au vin de pissenlit,
j'ai quand même ramené une bouteille de vin familial de Chablis.
Familial, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que j'ai la famille près de Chablis et il y a des vignes familiales où...
C'est ton vin !
C'est pas mon vin, c'est pas ma famille qui fait le vin, mais c'est du vin est fait à partir de ces vignes.
Donc obligé de le goûter ce soir alors.
Bah voilà.
Tout le monde boit du vin, Camille, tu bois un peu de vin
ou
pas ?
Oui, un peu de vin, ouais.
Sinon, il y a coca, bière, café, thé, eau, voilà, et puis moi, dès que vous avez soif, vous dites... Mathieu aussi, hein, c'est pareil. Hein, le Huffington Post, alors moi je dis souvent... Ben, c'est un site d'information que j'aime beaucoup, voilà, parce qu'il est,
merci.
Qui est riche, qui est bien écrit, vraiment.
On essaye de faire attention,
qui est bien écrit, qui est très réactif à l'actu.
On publie très vite.
Très vite,
Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye de trouver le titre qui est pas, qu'on n'a lu nulle part ailleurs, la petite accroche, la manière de présenter qui est très accessible. Moi, je vois beaucoup ça, en fait, comme ce qu'on peut faire sur YouTube ou sur... peut-être sur Twitch, en fait, je sais pas trop, mais on raconte quelque chose à hauteur des gens et on va réfléchir à une écriture accessible.
Ouais. Mais ça se sent, en fait. Vous êtes agréable à lire et puis réactif. Je l'ai mesuré récemment, je sais plus, pour un décès de personnalité. Je sais plus qui c'était. Et je suis tombé sur votre site et je me suis dit, waouh, déjà ?
Eh oui.
Ouais, ça bosse, voilà. Quoi. Vous êtes combien à la rédaction, Mickaël ?
On est une trentaine. Ah ouais. On a quand même un service politique, un service culture, un service life pour les sujets de société, un service labo environnement qui a beaucoup traité le sujet du réchauffement climatique, ouais. Aussi le Covid aussi. Voilà. Et on est donc une petite rédaction, on est un pur player, on n'a pas de magazine ou de quotidien adossé, on n'a pas de publication papier. Ce qui veut dire que c'est que les journalistes de la rédac qui produisent, on publie pas sur le site comme Le Monde peut le faire, par exemple, les articles du papier.
Il y a des fidèles, le bétonnier. Alors je sais pas si c'est Bouygues qui publie sous ce pseudo, je sais pas. Qui dit le œuf, il publie vite, mais bien et solide en général. Il publie pas pour publier, quitte à publier n'importe quoi.
Eh ben merci. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire.
Il va être embauché là.
Ouais.
J'aime de plus en plus le Huffington Beginner. Voilà. Voilà. C'est un site que j'aime bien.
Et le Huffington France, le rapport avec
les États-Unis.
Ouais, les États-Unis.
Alors les États-Unis qui ont exporté la marque Huffington Post en France, mais aussi en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Brésil. Et en fait, ça a été lancé donc en 2012 par le groupe Le Monde avec Anne Sinclair en directrice de rédaction.
D'accord.
Par une rédaction française qui a grossi. Dernièrement, le groupe Le Monde a racheté les parts des Américains, ce qui veut dire que maintenant c'est un site 100% français qui est la propriété du groupe Le Monde on ne dépend plus des Américains pour la technique, parce que par exemple c'était les Américains qui géraient notre site, le front, l'outil de publication,
le CMS et tout ça,
ce qui fait que parfois on avait des petits bugs, mais en fait les Américains dormaient, donc c'était un peu la panique. Ça a été rapatrié en France, donc au siège du groupe Le Monde, et on a quelquefois des liens éditoriaux avec le Huffington Post US.
D'accord.
Mais que pour des discussions d'actu.
Ok.
En fonction. En fait, c'est toutes les rédactes du Huffington Post qui communiquent dans Slack ou dans des réunions qu'on fait à l'improvise. Quand la reine d'Angleterre meurt, évidemment, je contacte le red chef du Huffington Post UK à Londres. J'essaie de voir si jamais on devait envoyer un journaliste, s'il n'y avait pas un canapé sur lequel nos journalistes pouvaient dormir chez les journalistes du Huffington Post UK.
D'accord, vous gardez quand même...
Même marque. Ça s'est construit sur les mêmes modèles, sur l'Internet qui reste gratuit, parce que tous les médias sont, en tout cas, de plus en plus derrière des abonnements. Donc, comment existe un média écrit sans abonnement et que par la publicité, c'est un modèle qui est vraiment en train de décliner.
Ça c'est vous aujourd'hui.
Ça c'est nous,
vous êtes sur ce modèle-là.
On est de moins en moins en fait à faire ça. Ouais. Il y a 20 minutes en France, mais qui a aussi des publications papier. Il y a des pure players comme Mediapart est un pure player. Ouais. Les Jours sont un pure player. Donc Mediapart et Les Jours par exemple, c'est derrière un abonnement. Pour rester gratuit dans l'économie actuelle, c'est un vrai challenge.
Alors, comment c'est la pub ?
C'est la publicité.
C'est la pub. Et c'est voilà. Et c'est compliqué.
On est content parce qu'on reste à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne perd pas trop d'argent, on n'en gagne pas des masses non plus. Donc là, pour l'instant, on maintient les choses, mais c'est déjà dans l'économie actuelle, c'est déjà pas mal en fait.
Bon, on est en train tous de constater qu'on a des modèles économiques pas tout à fait aboutis.
Non, voilà.
Camille nous expliquait tout à l'heure sien, Mickaël à l'instant, le mien. Alors, bonne nouvelle, comme il y a eu quelques subs depuis mon appel à l'aide tout à l'heure, je vais chercher à manger.
Merci.
Voilà, il y a une petite assiette de macarons qui va arriver et de petits sandwichs salés. Voilà. Alors je suis content parce que du coup, là il est quoi, 8h37, on a lancé il y a 30 minutes. Je trouve que pour une intro, malgré un crash provoqué par Malo qui a débroqué la multiprise, on est quand même sur un très bon rythme.
On est presque concis. Hein.
Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais chercher à manger. Voilà, bon c'est juste à côté.
Ça va.
Et puis, j'adore le chat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit bon, alors on parle de quoi ce soir ? Et puis quelqu'un qui a répondu. Ils n'ont pas encore annoncé les thèmes.
Les gens doivent se dire, tout le monde peut le faire.
Tu veux un coup de main ?
Non, mais donc du coup, on va lancer les thèmes. Donc, apportage de macarons et de petits sandwichs. Et puis, je vais vous annoncer les thèmes de ce soir. Alors, franchement, il y a eu la semaine d'actu a été assez riche.
Ouais.
Et plus que riche. D'ailleurs, j'ai trouvé que les thématiques d'actu impliquées par les infos de cette semaine étaient vraiment intéressantes. Mmh. Voilà.
Ça se percutait. Ouais. Ouais.
Je vous ai mis un peu l'eau à la bouche. Là. Je vais chercher les assiettes, bougez pas.
Ouais, moi je trouve que c'est intense, hein, cette rentrée. Je sais pas si c'est la rentrée, du coup, on reçoit plus l'actu que d'habitude parce qu'on était en vacances, on regardait pas trop ce qui se passe. Ou si c'est. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment des sujets, autant des polémiques un peu nulles que des sujets de fond qui sortent tout le temps, qui sont hyper importantes. Et,
après,
c'est hyper dense, là, c'est quelque.
Sur les vacances, les vacances qu'on a passées. Il s'est quand même passé les incendies, on a eu des canicules, voilà. Et même si j'ai pu, par exemple, déconnecter et tout ça, ouais, les conversations que j'avais avec ma famille, mes potes et tout, on sentait que c'était pas un été comme les autres. Donc je sais pas si ça nous a reposé de voir qu'en fait le réchauffement climatique devenait une réalité. Donc, et peut-être que les débats qu'on a actuellement, et alors je crois qu'on en parlera tout à l'heure, sur la sobriété et tout ça, je pense que ça, comment dire, il y a quelque chose qui s'est passé cet été, malgré tout.
Plus si, peut-être.
Si on parle de sobriété, parce que je sais,
amène le vin en parlant de sobriété. Moi, ce que je trouve,
si vous voulez, on attaque avec ça. Hein.
Bah écoute, il y a très bien avec les petits sandwichs, mais ça t'évitera de te relever. Let's go. Moi, je trouve, c'est l'imbrication aussi des sujets. Moi, j'ai un regard très très extérieur. On passe d'un Covid, d'un confinement à des gros problèmes climatiques, à de la guerre. Mais tous les sujets, les sujets en fait sont vachement imbriqués.
Mais bien sûr.
Pas dans une spirale positive, hein, c'est plutôt une spirale négative. Mais effectivement, moi j'ai jamais autant regardé les news. Je me suis jamais tenu aussi au courant de l'actualité.
Ça c'est super.
Et en plus c'est addictif aussi. Ce qui est dur. Et à la fois c'est bien, mais c'est vrai que quand tu commences à mettre le pied dans l'actu, c'est un peu comme une série quoi.
Ouais.
Enfin quand tu commences à suivre ça, t'as envie de savoir les rebondissements d'après. Ça te pousse tu prends cette habitude. Je sais que quand je préparais le concours de Sciences Po pour l'oral il y a 6 ans, il y avait ce truc où il fallait connaître un peu l'actu de tout partout. Et en fait, ça devient vraiment addictif aussi. Et t'as envie de savoir de ce qui se passe. Tu commences à t'entourer de gens qui suivent aussi. Et tu te retrouves dans. Et en même temps, ça peut, dans ton point de vue, merci beaucoup, de santé mentale, être aussi un peu parfois compliqué parce que tu. Enfin. Souvent, c'est assez anxiogène aussi, ce qui se passe. Tu peux te sentir dépossédé parce que l'actu, quand elle arrive, c'est déjà un peu après que ça soit passé. Donc, t'es toujours un peu en retard sur ce qui arrive. Et ta capacité d'action, elle est vachement réduite, quoi. Donc, ça peut aussi être un truc qui crée de l'apathie. Du coup,
et je pense que le problème que peuvent créer aussi... tous les problèmes auxquels on a faire face, c'est complexe. Il n'y a pas, il y a pas de solution simple à tous ces problèmes. Donc, on a beaucoup de gens qui nous expliquent que c'est complexe. Et je pense, c'est une théorie, que ça pousse aussi beaucoup de gens vers des gens qui vont donner des solutions simples à ces problèmes-là, qui sont des solutions dangereuses souvent.
Simplistes,
qui vont essayer. Et ça rassure beaucoup parce qu'on n'a tellement pas de réponses qu'on est très attiré par quelqu'un qui va nous dire « Attends, c'est simple, le problème, voilà, ça vient de ça, et c'est pas autre chose.
Bah, » les tests complotistes, c'est ça, c'est une réponse simple à un monde compliqué. Plus la réponse est simple, plus on doit s'en méfier, je pense, sur l'actualité. On est sur un très bon rythme, voilà, 41 minutes seulement d'introduction. On s'est bien présenté, on a parlé de modèle économique, on a crashé le stream grâce à Malo. Et bien, voici les thèmes de ce soir. Vous allez voir, on a pas mal de choses. Du coup... J'en ai mis un de moins que d'habitude. Souvent, je pousse un petit peu le bouchon un peu loin, comme Maurice et j'en mets 6. J'en ai mis que 5. Le cinquième, d'ailleurs, ayant été proposé par mes invités, et je pense que c'est un très bon thème. Le premier, Coupe du Monde, jeux asiatiques, donc jeux asiatiques d'hiver, hein, le sport irresponsable. Bon, la Coupe du Monde, c'est bien sûr la Coupe du Monde de football au Qatar. Hein, vous connaissez la polémique. Boycott, pas boycott, elle est en train d'approcher. On connaît les conditions dans lesquelles les stades ont été construits, les milliers de morts ouvriers, la question des droits de l'homme et des droits des femmes dans ce pays, et la question écologique, notamment avec la climatisation à ciel ouvert. Et puis, on s'était dit, bon bah c'est déjà énorme, et puis on apprend cette semaine qu'on a donné les Jeux asiatiques d'hiver, attention, c'est pas les Jeux olympiques, hein, c'est autre chose, de 2029 à... l'Arabie Saoudite. Je sais que j'ai fait un tweet ce jour-là en mode... c'était une vanne, en fait. En fait, c'était pas une vanne. En fait, la polémique, elle est dans l'intitulé « Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite », qui n'est pas un grand pays de neige et de ski, et de, même si on peut trouver quelques sommets enneigés. Donc ça pose plein de questions, évidemment. La question qu'on peut résumer ainsi, est-ce que le sport peut ignorer les questions climatiques ? et aussi les droits de l'homme. Voilà, on aura ce débat ensemble. Deuxième, plan de sobriété énergétique, un virage pour l'interrogation. Bah, il vous a peut-être pas échappé que le gouvernement a présenté cette semaine son fameux plan de sobriété énergétique, avec pas mal de mesures d'ailleurs, et puis avec un discours qui est assez intéressant, en mode, alors c'est pour cet hiver, c'est pour éviter les coupures, quoi, la pénurie de gaz, d'électricité.
Ça y est, Malo pour ça.
Il est embauché par le gouvernement, en fait. Ouais. On débranche, là,
Malo,
c'est bon.
Ouais, c'est le plus...
Ah, mais ouais, écouté, Elisabeth Borne.
Mais j'ai pas pensé. En fait, Malo, il est en pleine sobriété énergétique. Voilà. J'adore.
Les enfants comprennent.
Ce qui est sûr, c'est que nos enfants sont sans doute beaucoup plus sensibles encore que nous à ces questions-là, quoi. Mmh. Et puis, dans le discours du gouvernement, il y avait un truc que je trouvais intéressant, c'est... mais c'est pas que pour cet hiver. Il faudrait garder aussi... ces réflexes-là, ces habitudes après. Donc voici un gouvernement qui, jusque-là, vous n'aurez quand même pas trop parlé de tout ça, notamment pendant le premier quinquennat, l'exécutif autour du président Macron, et qui est en train de se rallier à l'idée de sobriété. Alors, on est assez loin des moqueries sur les Amish d'il y a quelques temps. Voilà. Troisième sujet, quand je vous dis qu'il y avait vraiment dans l'actualité des choses un peu de fond intéressantes, ben les 5 ans du mouvement MeToo, parce que c'était il y a pile 5 ans. Voilà, cette semaine, on a fêté les 5 ans. Ça a commencé avec l'affaire, alors on prononce comme on veut, hein, Jérôme... comment son prénom, c'était quoi Weinstein, c'était quoi son prénom? Oui, son prénom.
Harvey.
Harvey Weinstein. Weinstein, les deux se disent, pareil qu'aux États-Unis on dit plus Weinstein, en France je pense qu'on dit plus Weinstein. Donc c'était, c'est parti de là. C'était il y a 5 ans, ça a changé plein de choses, voilà. Et on en parle quasi quotidiennement, notamment en ce moment en France, avec les affaires qui sont invitées dans les partis politiques, l'affaire Quatennens du côté de LFI, ou encore l'affaire Julien Bayou, dont on a énormément parlé cette semaine, l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie des Verts, je dis ancien puisqu'il a quitté ses fonctions, et qui a pris la parole pour la première fois cette semaine pour se défendre. Donc on parlera du mouvement MeToo et peut-être aussi un petit peu de l'affaire Bayou. Iran, c'est le quatrième thème, leur révolte, notre impuissance. Alors leur révolte, ben, c'est évident, hein, on est dans la troisième semaine de manifestation d'hommes, de femmes en Iran, après la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme qui avait été arrêtée parce que les cheveux dépassaient de son voile sur sa tête. Voilà, elle est morte après son arrestation. La répression est extrêmement violente, on tire à balles réelles, je crois qu'on parle de 1500 morts à l'heure actuelle. Hein. Et pourquoi notre impuissance? Parce que cette question, je me la pose depuis quelques jours, c'est on regarde, on s'émeut, on pleure parfois, on condamne, mais nous, occidentaux, alors citoyens, politiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis ça parce que je repose la question la semaine dernière, je l'ai posée, puis on est resté un petit peu, un peu interdit, quoi, devant cette question. Je la pose cette semaine, puisqu'il y a eu des actrices et des chanteuses françaises qui ont fait un petit clip, hein, où ils ont coupé une mèche symboliquement de leurs cheveux. Et moi, j'ai été... alors, je suis peut-être un petit peu naïf, mais surpris de la violence des commentaires sur Twitter ou ailleurs.
Ah ouais, ils allaient dans quel sens?
Qu'est-ce que ça va changer? Elles sont gentilles, c'est bobo dans les beaux quartiers. elles font ça pour leur image. Et moi, j'ai trouvé ça un peu dur.
Mais ça change rien au sort des Iraniennes sur place. Quoi.
Alors, mais du coup, je comprends le débat, je comprends l'interrogation par rapport à ça, mais ça montre bien la question de notre impuissance.
Ouais.
Puisque les commentaires sous cette vidéo, c'était à quoi ça sert? Voilà. Okay. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis alors, Elon Musk, c'est venu de je sais plus si c'est Michael.
C'est
Michael.
Qu'on ait parlé.
Puis Jérôme tout de suite m'a dit ouais, super idée. Alors, Elon Musk, trop d'annonces, pourquoi? Alors j'en ai peut-être oublié. Là, ces derniers jours, on a eu un plan de paix pour l'Ukraine.
Ouais.
Qui a été pas très bien accueilli par les Ukrainiens d'ailleurs, y compris au plus haut niveau. Donc en gros, il a dit c'est très tiens, on en parlait. C'est très simple en fait, pour faire la paix, il suffit d'abandonner, je crois, la Crimée, hein, c'est ça.
Merci Elon.
Et tout ça sous forme d'un sondage sur Twitter.
Un sondage sur Twitter. Donc la diplomatie, la guerre, tout ça, c'est pas très compliqué, je vais vous régler ça, on fait un sondage sur Twitter. Voilà mon plan de paix, ça a été très très mal pris par les Ukrainiens. Donc plan de paix pour l'Ukraine, volte-face sur Twitter, le feuilleton très rapidement, j'achète Twitter. Non, je veux plus acheter Twitter parce qu'en fait il y a plein de faux comptes, ou en tout cas je veux plus acheter à ce prix là donc grosse bagarre avec Twitter, et puis procédure judiciaire, on allait vers un procès, et puis là cette semaine non, je veux pas de procès, finalement j'achète, et au prix convenu.
Mais il y a encore un rebondissement
tous les jours
rétropédale, ça recule.
Elon, si tu nous regardes, stop, parce qu'en fait j'arrive pas à suivre.
Mais c'est pareil de choses après.
Et puis il a aussi annoncé cette semaine un robot, il a présenté un robot alors qu'il présente comme révolutionnaire. Pas aujourd'hui, mais demain, il va être révolutionnaire, il va faire plein de trucs, il sera pas trop cher.
Il va en faire des millions.
Il va en faire des millions, ce sera moins cher qu'une voiture, il parle de 20 000 dollars. Et puis ça va changer notre société. Et grâce à ça, on va rester dans une société d'abondance.
Les gens ne travailleront plus et on pourra juste profiter.
Il y aura plus de chômage.
Ah ouais, c'est pas intéressant.
Il y aura plus de chômage. Il le dit. Il y aura plus de pauvreté grâce à mon robot. Ça fait beaucoup pour une semaine quand même.
Oui. Et tout le temps comme ça.
C'est une petite semaine. Il a été plutôt calme.
Oui, puis il a aussi parlé de ses fusées. Il a parlé de plein de choses. Mais bon, je peux pas tout. Voilà. Donc à un moment, on se dit waouh. Donc est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop d'annonces? Voilà. Donc c'était la question. Bon ben c'est un joli menu.
Dis donc.
Vous en pensez quoi à la maison de ce menu? Je voulais un petit peu. Et puis on démarre avec le premier thème dans un instant.
Et tu vas pas chanter dans ton nouveau micro?
Pourquoi il y a des questions?
Non, j'en sais rien. Mais vu que t'as un nouveau micro, on pourrait tester des capacités.
Soirée karaoké.
Ouais. En fait. Un moment. Tu vois.
On embraye.
Mais allez, du coup c'est karaoké là.
Camille le sait pas, mais c'est par période. Parfois je chante dans mes streams. Et en fait c'est très drôle parce que. On n'a pas le droit de passer de la musique sur Twitch en raison des droits d'auteur.
Okay.
Et en fait, moi, j'avais contourné ça et je chantais. Je me mettais la chanson dans les oreilles et je chantais a cappella parfois dessus.
Mal.
Mais en fait, je chante, comment dire. C'est pas faux, on est au-delà du faux, on est sur un truc. Donc ça fait beaucoup rire tout le monde. Et puis j'ai arrêté. Et la question, c'est quand est-ce que je vais recommencer? Bon, pas ce soir.
Ce micro ne va pas corriger ta
non.
mélodie.
Non, mais j'aime bien. Okay.
Ça tient l'autotune intégrée de ces dedans.
Voilà, ça chante bien.
Très bon menu, merci Sti. Ouais, sujet intéressant, ok, super. Ouais. Ok, ça vous plaît.
Moi, je me permets de souhaiter un bon courage quand même à la modération, à nos fantastiques modérations. Ouais. La tienne est fantastique.
T'as raison, on va les saluer.
Et là, ils vont avoir du boulot ce soir, je pense.
Ça va, je trouve.
Mmh. Ouais, parce que les sujets sont.
En fait, ils sont habitués, et je les salue individuellement. Il y a Brobro06, il y a Francis, il y a Gandalf Listaré, il y a Julo18, il y a Crimsonk, il y a Petit Dragon Vert de Rage, et il y a Nightbot, bien sûr, mon ami, qui est là jour et nuit, je sais pas comment il fait. Alors, je les salue parce qu'ils sont nombreux et qu'ils font un super boulot. Camille, les modérateurs, tu vois ce que c'est à peu près ou pas?
Non, du coup, j'ai posé la question, mais ils regardent s'il n'y a pas trop de...
Oui, c'est des gens qui bénévolement donnent de leur temps à une chaîne Twitch. Ils donnent de leur temps, ils sont étudiants, ils sont salariés, ils ont différents statuts. Et en fait, quand tu lances un live, s'ils ont du temps, ils viennent avec toi. Et je leur ai donné des droits, ils peuvent supprimer des messages quand ils ne s'inscrivent pas dans le cadre éditorial que j'ai défini.
Trop bien.
Par exemple, là, si on tape point d'interrogation, modération dans le chat, on va avoir résumé... ma philosophie de modération, toutes les opinions sont acceptées ici, les opinions légales.
Voilà.
Je rappelle que le racisme n'est pas une idée, c'est un délit. Et exprimer avec respect par rapport aux invités, par rapport aux autres viewers. Tout propos raciste, / homophobe, / sexiste, / discriminant sera évidemment supprimé et son auteur susceptible d'être banni. Donc les modérateurs ont la capacité, par rapport à cette ligne que j'ai décrétée, on peut parler de tout. Toutes les idées sont exprimables si elles sont légales, mais de façon correcte, les modérateurs peuvent supprimer un message, bannir provisoirement l'émetteur d'un message si vraiment il vient un peu pour troller, pour polluer, et si vraiment il est vraiment là avec des idées un peu négatives, bon là il peut être banni définitivement de la chaîne, ce qui n'arrive pas souvent, mais voilà. Et donc les modérateurs participent. Et
bah, merci pour le travail.
Surtout quand tu abordes des sujets politiques, c'est les forces spéciales de la modération.
Faut les remercier parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je parle beaucoup d'actualité. Je ne mets jamais une actualité de côté en me disant ah mais non ça c'est trop touch.
Jamais. Il n'y a jamais rien qui t'a trop compliqué.
Non parce que journalistiquement je me l'interdis parce que ça voudrait dire je m'auto-censure en pensant que ça va être ingérable et ça veut dire qu'il y a des sujets de société que je mets sous le tapis. La question, là, on va parler des violences sexistes, violences faites aux femmes, par exemple. Bon, ça, souvent, ça s'enflamme dans le chat. Si je parle du Proche-Orient, si je parle de la question du racisme, pareil, ça crée des débats un peu houleux. Mais l'idée de mettre sous le tapis des débats en me disant que non, ça va être ingérable, ça va être trop chaud, non. Je préfère que ce soit un peu animé et qu'on ait parfois un peu de difficulté à gérer ce débat plutôt que de passer un sujet sous silence. Donc, je parle de tout. Mais du coup, j'ai des super modos.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est le secret, quand même.
Bon, on va commencer avec le premier thème, si vous voulez. Coupe du Monde, virgule, jeu asiatique, sport irresponsable. Donc, la Coupe du Monde au Qatar, 2022, c'est dans pas très longtemps, quelques semaines. Je rappelle, je brosse un peu le portrait de la situation. Elle a été attribuée il y a longtemps, cette Coupe du Monde.
Il y a 9 ans, non,
donc, plus,
ça.
12,
ça fait longtemps
12, je crois.
Que ça va arriver. 12
ans, okay.
On va demander au chat combien de temps la Coupe du Monde. Donc, c'était il y a longtemps. 2010, voilà, c'est ça, 2010, okay. Donc ça fait 12 ans. Donc elle a été attribuée il y a longtemps. Bon, bah maintenant elle s'approche, donc on commence à s'y intéresser. Et puis, en 12 ans, on s'est vu confirmer, on a appris des choses. Les milliers de morts pendant la construction des stades, ouais, qui sont souvent des, ou quasiment tout le temps d'ailleurs, des ouvriers immigrés, voilà, qui ont travaillé dans telles conditions que plein, des milliers sont morts dans ces chantiers. Ça a été documenté et calculé par des ONG. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, il y a la question des droits de l'homme et des droits des femmes dans ce pays. Voilà, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des progrès à faire. Mmh. Et le troisième point, c'est la question écologique, avec une Coupe du Monde, avec ces gigantesques stades qui sont climatisés à ciel ouvert. Certains disent, oui, mais à l'époque où ça va se faire, il ne fera pas si chaud, il ne fera que 25 degrés. Stade climatisé à ciel ouvert. Quoi.
Et un public dont on a appris récemment que pour les pays voisins, ils allaient pouvoir venir chaque jour en avion et
en
repartir.
Jet, ouais. 160 allers-retours
160
par jour,
quotidien. Ça, c'est le dernier truc. Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas les infrastructures prêtes à temps et du coup, ils ont dit, c'est pas grave, on va loger les gens dans les pays voisins et puis on mettra à dispo des jets pour qu'ils puissent venir voir les matchs. Quoi.
Ou même
des avions moyen courrier. Donc ça, c'est... On s'est dit, ça nous occupe déjà pas mal. Sur cette chaîne, on se pose vraiment la question du boycott, par exemple. Mmh, j'ai fait régulièrement des sondages, parce que Camille, il y a un outil ici, on peut faire des sondages auprès de la communauté sur n'importe quelle question en quelques secondes. Et on a des milliers de gens qui votent. Là, on avait 4000 personnes. Par exemple, si je lance un sondage, on va avoir 3-4000 personnes qui vont participer au sondage. Alors, ce n'est pas un sondage représentatif de la population française, mais c'est intéressant de voir ce que notre public pense d'une question.
Ouais.
Par exemple, moi, j'aurais posé à deux reprises déjà la question. Est-ce que vous voulez que sur cette chaîne, on boycotte le mondial ? Qu'est-ce que ça veut dire boycotter le mondial sur cette chaîne ? C'est de ne pas parler de l'aspect sportif du mondial. C'est-à-dire, concrètement, de ne pas donner les résultats des matchs, de ne pas parler de... Si la France est championne du monde, de ne pas en parler, de ne pas en parler, et par contre, de continuer à parler du reste. Les droits de l'homme, l'écologie, parce que ce serait débile. Eh bien, il y a une large majorité de ma communauté, de mes viewers, qui répondent oui.
Ah, énorme,
Bon, après, j'en soupçonne pas mal de ne pas s'intéresser au foot à la base.
Mais voilà, j'avais une question. Est-ce que toi, t'es fan de foot ?
Non.
Est-ce que t'en parles, pas pour la Coupe du Monde, mais du championnat de France, est-ce que c'est dans tes passions ?
Je ne suis pas fan de foot, parce que je ne suis pas un grand spécialiste. Mais en revanche, j'en parle au quotidien sur ma chaîne, parce que c'est une actualité qui est intéressante. Mmh. Il y a des enjeux humains, des enjeux sportifs, il y a des belles histoires. Même dans le championnat de Ligue 1, il y a des... dans certaines rencontres, dans certains derbies, c'est aussi des histoires d'hommes parfois qui sont assez
intéressantes. Il y a des clubs comme Lens.
Et puis surtout quand même, c'est pas comme si c'était un petit match, même si on n'est pas fan de foot à la base. La Coupe du Monde, c'est l'événement sportif qu'on regarde au monde devant les JO.
Et qui crée du lien entre les gens.
C'est pour ça que je pense que la vraie question, moi par exemple, rien à faire du foot, je ne regarderai pas, donc c'est facile de boycotter.
Oui.
Mais la vraie question qu'il faudrait me poser, c'est si la France est en finale,
est-ce que tu regarderas le match ou pas ?
Parce que ça va être beaucoup plus dur de résister, parce que même moi qui n'en ai rien à faire du foot, je regarde les finales quand la France est en finale, parce que tous les amis le font. Voilà. C'est là où serait la vraie résistance, en fait.
Et ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que... Tout le public occidental tous les fans de foot vont en fait regarder la compétition, continuer à en parler comme si de rien n'était, ou est-ce qu'il va y avoir une gêne, genre bon ok on regarde, mais en fait c'est vrai que vous avez vu le sujet hier à la télé, ou vous avez lu un truc sur les conditions, enfin tu vois, est-ce que ça va gêner les gens, ou en fait il va y avoir une majorité qui vont juste regarder l'événement sportif, parler du super but ou des super exploits de telle ou telle équipe inattendue comme à chaque fois, et si finalement tout le débat qu'on a là actuellement, c'est un débat qui sera que pré-Coupe du Monde et qui n'aura plus lieu pendant.
Ouais.
Ça, je sais pas.
Ça, c'est sans prendre en compte le fait qu'il y a quand même la société civile qui commence à s'organiser. Enfin, en tout cas, des gens qui sont... Moi, je suis en plein de book Telegram aussi, de gens qui ont dit « Ok, en vrai, factuellement, il y a quand même plus de 6000 morts qui ont été pour les constructions et pour moins de 6000 minutes de jeu. » Donc il y a genre 5700 minutes de jeu, un truc comme ça. Donc ça fait quand même... Chaque fois qu'il y a une minute de jeu, c'est un mort. Donc quand t'as ça en tête, tu te dis « Bon... » Et en fait, dans tous les cas, c'est très bien qu'ils vont y aller, que les joueurs vont disputer le match, mais c'est plus de se dire, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une sorte de ligne rouge morale où on se dit, pour les prochains, parce que quand on voit que ça a été décidé il y a 12 ans, en fait, là, sont en négociation les prochains grands événements sportifs, les Coupes du Monde, mais aussi les JO, les autres. Et en fait, si on laisse passer ça, c'est un peu l'idée de se dire, dans ce cas, c'est la porte ouverte à tout. Si on dit, nous, en tant que société, nous, en tant que supporters, on trouve que là, franchement, vous allez trop loin et on ne peut pas tout faire au nom du sport. Ça n'est pas en dehors de tout. et ben du coup ça créera aussi un précédent pour les prochaines où ils se poseront plus de questions. On l'a vu avec
ce que tu dis est très intéressant parce que tu réponds à une question qui est beaucoup évoquée dans le chat souvent sur cette thématique. Souvent on me dit mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est maintenant, on peut rien faire, le boycott ne sert à rien. Et en fait, toi, tu viens d'apporter une réponse, Camille, à
trop bien.
En disant ouais, mais c'est pour après, c'est pour les prochains.
C'est jamais trop tard. En fait, vraiment, ouais. Moi, je pense que c'est. Mais même, tu vois, sur le climat et tout, on dit souvent ça, ou sur ce truc de te dire tu mènes pas un combat uniquement parce qu'il est gagnable, mais aussi parce qu'il est juste. Et c'est vraiment de se dire on crée des précédents. Là, avec la polémique sur les jets privés, le char à voile, on va pas revenir dessus. Ça a fait beaucoup de bazar. Là, je viens de voir en arrivant dans le métro.
Le PSG.
PSG.
Ils vont prendre le bus.
Ils vont prendre le bus pour aller
à Reims.
Et ils ont dit, bah voilà, après la polémique. Donc en fait.
La polémique, elle servait quelque chose.
Ouais, il se passe quelque chose.
C'est aussi des moments importants où nous on dit, bah non, là on va trop loin, à un moment donné, stop, on arrête, on en fait un symbole d'un truc avec lequel on n'est pas d'accord. Maintenant, ce qui me semble moins intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à retrouver par ailleurs toutes ces valeurs dont on parlait, des valeurs du sport qui sont incroyables. Quand même, on se rappelle en 2018, moi, j'ai jamais vu autant de monde en Paris. En fait, même avec toutes les marches climat, tous les événements qu'on a fait, on n'a jamais réussi, le fait de la musique, j'en sais rien, on n'a jamais réussi à avoir un truc qui fédère autant de populations qui ne se parlent plus. Et ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue qui existe en tant que nation. Et on est français, française à ce moment-là, et il n'y a que ça qui compte. Et ça, c'est dingue, mais comment est-ce qu'on se dit, on prend ces valeurs-là du sport, qui sont aussi même juste en tant que sport, t'as le truc de te dépasser, de faire de l'effort, le truc de accepter un terrain donné avec des règles du jeu, où même nos ennemis respectent ces règles du jeu-là. Il y a un nombre de temps, il y a des règles de comment est-ce qu'on tire, comment est-ce qu'un but est accepté ou pas. On s'organise en équipe. C'est quand même des valeurs hyper importante et intéressante dans la société dont on a besoin pour l'écologie. Donc comment est-ce que à la fois on arrive à faire un truc intelligent qui permette de garder encore ces valeurs-là et continuer à créer des moments dans la société? Ça peut être par d'autres choses, je vous en parlerai peut-être à la fin, j'ai une petite idée, qui font encore que ces valeurs-là ont des espaces dans la société pour s'exprimer, quoi.
Juste sur Reims, parce que quelqu'un posait la question dans le chat, c'est une bonne question, je me la suis posée. Oui, mais est-ce qu'ils n'avaient pas déjà prévu d'y aller en bus avant la polémique? Je viens de chercher l'info. Non, la saison dernière, Reims-PSG, ils s'étaient déplacés en avion. Il y a deux heures de route. Hein. Ouais. Donc, ça a bien changé quelque chose. Et tout à l'heure, on disait, Camille nous expliquait, oui, ça sert de se mobiliser sur cette question de la Coupe du Monde au Qatar, même si elle va se tenir malgré tout pour l'avenir. Mais il y a Échanson dans le chat qui disait, bah oui, mais sauf qu'ils viennent de décider, pas les mêmes personnes, mais de nous faire les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Donc,
mais en fait, c'était déjà décidé aussi avant ça.
Ouais.
Donc justement, c'est comment est-ce qu'on fait pour celles qui arrivent encore dans un monde où il fera encore plus chaud, donc il faudra encore plus climatiser, ce sera encore plus n'importe quoi. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire, ce qu'on fait là maintenant, ça va être utile sur des événements sportifs, mais aussi sur des gros événements de culture, des énormes concerts, des énormes tournées. Si à un moment donné, on nous dit, nous, baissez le chauffage, faites attention, débranchez votre wifi, machin, et qu'après, c'est du n'importe quoi dans ces gros événements de divertissement, ça n'a aucun sens.
Moi, il y a un truc, par rapport à toutes les valeurs dont tu parles, et comment on arrive à rester intelligent et à faire des choses constructives pour l'avenir, j'attends beaucoup des joueurs, en fait. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Je ne sais pas si pour les histoires de contrats avec leur club, pour les histoires de sponsors. Mais est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont, je sais pas, avoir un truc sur leur maillot,
un brassard.
Est-ce qu'il va y avoir des prises de position, qui pourront peut-être être dénoncées comme hypocrites, c'est-à-dire que les joueurs qui acceptent toute l'organisation de la Coupe du Monde, ils auront beau jeu de la critiquer alors qu'ils font les matchs et qu'ils participent au truc. Mais il y aura peut-être, ça va être une audience aussi incroyable, et il y a peut-être des messages qui vont passer. Je me demande si des associations vont faire des happenings, mais est-ce que c'est possible des happenings au Qatar? Je ne suis pas sûr. Mais du coup, ça va être aussi beaucoup, je pense, sur les épaules des joueurs, de quel message et quel sens vous pouvez donner. Est-ce que vous faites tout sans broncher et sans réfléchir? Ou en fait, est-ce que vous arrivez à faire passer quand même un message? Et ça,
dans le chat, ils sont beaucoup à parler de ce que fait l'équipe du Danemark, je crois, hein, c'est ça, qui a décidé d'adopter un maillot un peu particulier, très noir, avec quasiment aucun signe distinctif. Ils ont deux tenues, une qui est très sombre, une qui est carrément noire, qui est pour eux une façon de protester contre la manière dont
ça aura une résonance mondiale, en fait. Après, ça suffit pas. Mais,
ce que tu dis est vraiment intéressant, je trouve, parce que c'est pareil, quelque chose qu'on entend souvent, c'est pourquoi on n'accepterait pas ce qui se passe au Qatar, alors qu'on a accepté des choses, notamment sur le nombre d'ouvriers morts, dans les Jeux Olympiques, en Russie, en Chine.
Il a raison, alors, Jérôme, ça, mais les gens le disent beaucoup.
C'est pas parce que t'as été nul hier qu'il faut être nul demain.
Bien sûr, au contraire. On est
dans un flux constant, une progression. Est-ce qu'on doit, parce que hier on a fait des erreurs, les perpétrer demain? Et l'écologie, s'il y a au moins une chose qui se passe avec le Qatar, c'est que on voit quand même que là, même des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés aux problèmes de climat, c'est très très loin de leurs préoccupations. Le fait même que ça rentre dans le débat du foot, et cette histoire de char à voile, je pense, aura des conséquences positives aussi, parce qu'il y a... Il y a une prise de conscience même de personnes pour qui c'était très très éloigné. Et ça, c'est déjà quelque chose.
Je suis content que tu parles de ça parce qu'à chaque fois que j'évoque ce sujet du boycott de ce mondial de foot, il y a des gens dans le chat qui me disent, et c'est pertinent comme argument, bah oui, mais alors on n'a rien dit pour les JO en Chine ou en Russie.
Et en Russie.
Après, il y a un autre argument qui dit, ah oui, mais alors le Qatar, alors on veut bien leur vendre des avions de chasse, on veut bien leur acheter leur pétrole. Là, on dit rien.
Mais c'est pas faux.
On dit rien. Mais alors, ils n'ont pas le droit d'organiser la Coupe du Monde. Donc c'est vrai,
c'est ça qui est bien, c'est que ça sert.
Il y a une forme d'hypocrisie aussi.
Oui et non, parce que l'argument du passé, je le trouve un peu facile. Enfin, c'est pas parce qu'on a marché sur le droit des femmes pendant tant d'années que du coup on doit dire bah non, mais c'est comme ça, donc désolé, hein, pardon, on n'en parle plus. Non, je veux dire, ça marche pas. Enfin,
c'est la tradition.
Le passé n'excuse pas le futur. Au contraire, genre, soyons. On se dit bah là, on n'est plus d'accord, notre génération trouve que non, ça va plus. Et sur l'argument de dire, en fait, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que le sport, on voit ça comme quelque chose un peu comme l'art, un truc vraiment en dehors de toute diplomatie, en dehors de toute politique. C'est ce truc qui unifie, qui fait à la base les JO. Il y avait ce discours parfois, ce rôle-là.
Mais le sport, il faut que ça reste à part.
Et en fait, tout est politique. Et on se rend compte que tout est politique et que ça peut permettre justement de dire. Et c'est pour ça aussi qu'ils s'arrachent ces gros événements sportifs, parce que d'un coup, on a tous les journalistes, on a les yeux du monde rivés sur nous. Et donc, ça veut dire aussi devoir assumer toutes les incohérences qu'on a, devoir questionner les politiques là-bas d'un point de vue de droit humain, de droit environnemental, comme on en parlait. Ça peut justement permettre de mettre le projecteur sur toutes les aberrations de ces grands pays qui vivent grâce au pétrole. Donc justement, je pense que ça peut être intéressant d'un point de vue du traitement médiatique de on est au Qatar, on parle du Qatar, bah parlons-en justement de nos dépendances au pétrole face à ces pays, etc., etc. Donc là-dessus, les médias ont une responsabilité faire un truc intéressant.
Ça a lieu, c'est-à-dire qu'il y a, et même le fait qu'on en parle maintenant, j'ai pas le souvenir d'une précédente Coupe du Monde où on en parle à ce point sur tous les sujets que tu évoquais.
C'est une grande première.
Voilà, et par contre, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les footix, ce qu'on appelle les fans de foot,
tu t'es fait quelques ennemis.
Ouais, je sais, mais dans la rédac, c'est comme ça qu'on dit bon, les footix, et tout le monde comprend tout de suite.
Nous aussi, on dit ça avec notre bande de potes.
Moi, je suis un footix, c'est-à-dire que je fais mine de m'y connaître, mais j'y connais rien.
Est-ce que tout le monde va suivre malgré tout le mouvement, et si ça se trouve les audiences des matchs vont être incroyables, ça aura coexisté avec le débat qu'on a, mais en fait ça va peut-être être un succès médiatique sans une once de remise en cause sur le fait qu'il y aura des prochaines Coupes du Monde. Et
ta question, on va la poser parce que elle m'intéresse. Quand je pose la question, quand je fais un sondage ici pour demander est-ce qu'on doit boycotter cette chaîne la Coupe du Monde, vous êtes 60% ou plus à me dire oui. Voilà. Mais la question qu'on va poser ce soir, c'est vous, fans de foot, c'est parce que c'est la question que tu poses, vous, fans de foot, est-ce que vous allez boycotter la Coupe du Monde?
Voilà, c'est ça.
Elle est différente.
Les fans de foot, ils sont nombreux. C'est le sport le plus populaire, je
pense. C'est-à-dire, allez-vous ne pas regarder les matchs? Et là, je m'adresse uniquement, et je vous demande de jouer le jeu aux fans de foot. C'est-à-dire que les gens qui aiment le football, les gens qui le regardent, qui avaient prévu de regarder les matchs, on va dire, dans un contexte normal. Je vous pose la question qu'à vous, je sais que vous allez jouer le jeu, et cette réponse, elle va être intéressante, parce que je ne l'ai pas encore posée, et c'est la question qu'on se pose un petit peu depuis le début.
Ouais, c'est ça.
Moi, je trouve qu'il y a aussi un débat, ce qui est, à mon avis, assez intéressant, c'est que, finalement, le Qatar, et plein d'autres pays, et nous aussi, il y a le fait qu'on soit un monde mondialisé, c'est un fait, mais ça a un coût aussi. Ça veut dire que tout le monde regarde chez toi. Mmh. Tu peux plus aujourd'hui profiter d'une économie mondialisée pour t'enrichir ou te diversifier, mmh. dans le cas du Qatar, investir dans des clubs de foot en France ou d'autres choses en Angleterre, et derrière dire « Non mais attendez, je suis chez moi, vous n'avez pas à regarder mes conditions de travail, vous n'avez pas à regarder comment on traite les femmes dans notre pays ». Ça marche dans les deux sens. Je veux dire, la mondialisation, tu as des droits et des devoirs. Tu peux pas juste enrichir et dire « Vous n'avez pas le droit d'ingérer avec ma manière de faire ». Sinon, tu te sors de la mondialisation. Si tu veux pas qu'on ingère, tu te sors, quoi. C'est, ça, je trouve ça intéressant. Au-delà du débat du foot, c'est qu'aujourd'hui, des pays, et on l'a vu dans l'histoire des Jeux Olympiques, comme tu disais, Camille, ça a toujours été politique. Les boycotts de l'URSS. Moi, je m'en souviens, j'étais petit, mais voilà, il y a eu le boycott des États-Unis qui n'allait pas en URSS pour les Jeux Olympiques. Il y a eu des boycotts, il y a eu des attentats. Même depuis l'origine des Jeux Olympiques dans la Grèce antique, ça servait à un point politique, en fait, ces rassemblements de sport. Alors, c'est des catalyseurs, ça évite des guerres, mais ça met aussi le point sur des problèmes mondiaux ou de grosses communautés, en fait.
Mais moi, ce que je me pose, et je pose la question à ceux qui connaissent plus le foot, je me disais, c'est quand même un non-débat, le fait que tu aies des clubs de foot, notamment le PSG, qui appartiennent à ces pays, en fait.
Oui.
Genre, ça appartient au Qatar, le PSG, d'accord. Voilà, et c'est un peu un non-débat. Enfin, en fait, je sais pas ce que ça implique concrètement.
C'est ce qui permet d'acheter les stars qui sont sur le terrain aujourd'hui.
Bah ouais, mais du coup, ça pose aussi des questions, quoi. Quand tu vois c'est vraiment le pire de même de la société de consommation. Quand tu vois les sponsors de ces événements-là, on est sur de l'ultra, ultra consommation, de non-respect de droits humains et droits environnementaux en tout point. Enfin, on peut pas dire que le foot est en dehors et pas politique parce que précisément, il participe aussi. Enfin, le foot et tous les autres sports et tous les autres gros événements qui ont cette envergure-là, ils participent aussi, peut-être parfois malgré eux. Hein, je sais pas que c'est les joueurs en conscience forcément, mais. En tout cas, les fédérations, l'industrie du sport à ce niveau-là participe aussi, en fait, de cette société qu'on dénonce. Mais juste sur le boycott, je trouve un truc intéressant, c'est de se dire de quel boycott on parle. En fait, il y a là le boycott des villes qui ont annoncé ne pas diffuser sur écran géant.
Donc il y a genre Paris, Marseille, voilà. Lille.
Bordeaux, Strasbourg, Bordeaux, Lille, je crois. Lille, c'est quand même beaucoup, c'est quand même les principales villes.
Ouais. Le Figaro soulignait que c'était essentiellement des villes de gauche, d'ailleurs, cette semaine. Okay. Quand on regarde, écologiste ou à gauche, quoi.
Et par ailleurs, certains ont dit que c'était aussi un boycott facile.
Oui.
Dans le sens où bon, ce sera l'hiver en France. Il n'y avait pas non plus des fan zones.
Certaines villes n'avaient pas prévu forcément d'en faire. Et puis il y a autre chose pour aller. Tu parlais du PSG. Alors parce qu'on parle aussi d'hypocrisie parfois. Moi, un certain dans le chat vous disait oui. Alors on boycotte cette Coupe du Monde, mais on leur vend des avions et on leur achète leur pétrole. Certains soulignent par exemple que donc la mairie de Paris a annoncé qu'elle allait boycotter ce mondial en diffusant pas sur écran géant. Mais
accepte le financement.
On n'a pas entendu la mairie de Paris protester contre le financement de l'équipe phare de la ville par le Qatar, quoi.
C'est vrai. Non mais ce serait intéressant comme sur le charabal, d'ouvrir en gros le truc, de dire bah voilà, on regarde et en fait le foot entre dans le champ aussi de la politique, comme tout, pas plus que d'autres choses, mais parmi tout ce qui régit la société et ce qui fait société. Et donc du coup bah on en débat aussi et ça devient intéressant. Et juste sur ce sujet-là, je disais, tu vois, t'as ce boycott là qui peut être un boycott qui peut paraître comme facile, mais en même temps la politique elle est aussi faite de symboles.
Ouais.
Et c'est vraiment très important, même si c'est comme la Tour Eiffel qui est éteinte un peu à partir de 23h. En soi, en soi elle est.
J'habite en face de la Tour Eiffel.
C'est magnifique. J'ai une très belle vue, même si
dans un mille mètres carrés dans lequel on se déplace en scooter électrique.
Voilà, à 23h, il va y avoir une nouvelle coupure.
Non, mais en vrai, il faut savoir quand même que c'est que 4%. Enfin, ça, c'est anecdotique, juste l'électricité de la Tour Eiffel, mais c'est un symbole de dire, à un moment donné. Donc, je pense qu'on fait tous des efforts. Donc, c'est aussi là-dessus que les villes disent, bah, nous, OK, en tout cas, on va pas le rediffuser, c'est un symbole politique fort. Et il y a ensuite le boycott qui pourrait être celui de la part, un boycott diplomatique, c'est-à-dire on n'envoie pas de représentants politiques, même si on envoie nos joueurs, on n'envoie pas de représentants politiques dans ces pays. Il y a une pétition qui est en train de circuler là-dessus. Je pense que le chat, si j'ai compris que vous êtes à fond, peut la trouver quelque part sur Internet et la mettre.
Il y a François Hollande qui a dit si j'étais président. Moi j'irai pas.
En fait, c'est déjà arrivé même au JO de Pékin. Enfin, c'est arrivé il y a pas longtemps du tout. Donc en fait, ça existe. On peut dire, bah, on envoie nos joueurs parce qu'on sait que c'est leur carrière et tout. Moi, je mets quand même un petit bémol sur ce truc de demander aux joueurs. Je pense que ça peut être bien de demander aux fédérations aussi, à ceux qui organisent, pour venir de ce milieu-là du sport de haut niveau, enfin surtout toute ma famille, j'ai plein d'amis qui sont dans ce monde, dans ce monde-là. Je sais aussi combien c'est le moment d'une vie et combien c'est tellement de sacrifices, de travail pour genre un moment donné. Et du coup, leur donner la responsabilité, c'est des artistes. C'est-à-dire que j'ai posé la question à Kylian Jornet, si jamais Kylian Mbappé disait bah en fait j'y vais pas ou en fait j'en parle, est-ce qu'il a le droit ? Et en fait, oui, ils ont la possibilité de le faire, ils ont le droit de le faire, ils sont libres. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on mette aussi pas, c'est de la même manière sur l'écologie, c'est pas que sur le citoyen en fin de course, mais c'est sur ceux qui organisent tout ça. Donc, je pense que ce serait intéressant d'en parler en fait aux fédérations, aux clubs, à l'industrie, quoi.
La FIFA, où en plus c'est des soupçons de corruption assez importants. Je ne sais plus ce qui a été démontré ou pas, mais sur les attributions des pays et tout, et la FIFA qui brasse vraiment beaucoup d'argent. Et c'est sûr qu'il y a une responsabilité incroyable, plus sur la FIFA que sur la décision du joueur de l'autre côté.
Et même au-delà des joueurs, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est vrai que la responsabilité du boycott sur les fans, sur les joueurs, c'est pas du jeu non plus. Je veux dire, il y a des gens qui attendent de voir. C'est pas de la faute des fans si la FIFA a décidé d'organiser le truc au Qatar, et pourquoi eux devraient boycotter alors que
dans les conditions qu'on sait, parce qu'il y a des enquêtes judiciaires en cours actuellement sur les conditions d'attribution
de ce mondial, donc c'est prise en
otage aussi. Il y a un article de l'équipe là-dessus qui est ouf,
et en plus ça dessert le propos, parce que on arrive, et on en parlera certainement dans le sujet suivant, mais quand on est dans la culpabilisation du fan qui va regarder les matchs parce qu'il est passionné de foot, ça va non seulement pas vraiment servir le débat, mais ça sera contre-productif, parce qu'on va entendre des gens dire « j'en ai marre qu'on me dise comment je dois vivre, l'écologie c'est chiant, etc. » Donc c'est contre-productif aussi.
Mais tu vois,
je vous donne le sondage, en fait, ce qu'on a lancé tout à l'heure, vous savez. Ouais. Il est intéressant parce que du coup, c'est pas la question que je posais d'habitude, qui était « est-ce que vous, viewers, vous voulez qu'on boycotte ici cette Coupe du Monde ?» Et là, j'ai dit « vous, fans de foot, est-ce que vous avez boycotté le Mondial ?» Le résultat n'est pas le même, mais il est intéressant. C'est non à 48%. Vous n'allez pas boycotter. Donc, c'est une réponse sincère. Et c'est oui à 38%. Ce qui est énorme.
C'est énorme.
Parce que là, c'est se priver d'un plaisir, d'une joie.
C'est intéressant.
Et potentiellement, des potes vont pas boycotter.
Exactement.
Et là-dessus, j'en profite.
Merci d'avoir voté.
Dire, c'est trop cool. Enfin, je fais une petite annonce, mais... En gros, on va lancer ça demain, donc je balance ces infos. Non, mais en fait, je me suis posé cette question parce que je me suis dit, tu vois, moi, j'ai été un tout petit peu dans une équipe de foot féminin avec ma fac et tout, et c'était trop cool. Et du coup, j'ai plein de gens qui regardent et qui ont envie de regarder et tout ça. Je connais pas grand-chose au foot, mais je vois que en fait, il y en a beaucoup, comme le montre le sondage quand même, pour qui c'est des moments importants et qui disent, en fait, là, ça va au-delà de mes valeurs. Et à un moment donné, on ne peut pas tout faire avec les mains sales, quoi. Et je me suis dit, comment est-ce que, pour une fois, on n'utiliserait pas ce moment pour parler des valeurs du foot dont je vous parlais, qui sont un truc de réunification, machin, de dépassement et tout, en même temps, en fait, ne pas être encore une écologie punitive, enfin, hyper délétère, où c'est en mode, vous allez rester sur votre canapé chez vous pendant que vos potes seront dans les bars en train de vous amuser. Comment est-ce qu'on dit, est-ce qu'on n'en créerait pas un moment fort pour faire une contre-coupe ? Et du coup, on va organiser une contre-coupe. Et l'idée, mais je sais pas si c'est un peu n'importe quoi ou pas, vous me dites sincèrement. Ce serait incroyable d'avoir une sorte de trouver quelques développeurs un peu chauds pour faire une sorte de carte de France où tu peux t'inscrire et où tu dis eh ben en fait, moi, le soir, à la place des matchs, chez moi, je vais organiser une projection d'un film que j'adore parce que j'ai un vidéoprojecteur. Ou dans mon jardin, je vais organiser un petit concert parce qu'en fait, j'adore faire de la musique et je fais ça gratuitement.
Des contre-propositions.
Des contre-propositions où en plus, ça crée du lien parce
Moi, je ferai des streams.
Tu vois ? Non, mais en vrai, on voit jamais nos voisins, on se rencontre jamais. Et si tu crées des moments comme ça, c'est un peu la bonne excuse pour faire un rencontre de ouf.
Une table de baby foot, stream.
Non, mais.
Tu vois, en vrai, et donc ça, ce serait ça le soir. Et trouver aussi. Des artistes,
ça réagit.
Des salles de concert.
La contre-soirée, idée de fou.
Tu vois, comme ça, on n'est pas puni de ne pas faire en mode on crée de la FOMO. Et je vais trop faire une méga contre-teuf. Et j'ai des artistes, franchement, connus et stylés qui m'ont dit en vrai, trop chaud si tu me trouves une salle. On fait ça gratuitement et on fait une méga contre-soirée.
Pas mal. Attends, vous annoncez ça bientôt, hein, tu m'as dit.
Demain, mais là, je vous le dis.
Maintenant,
parce que
en fait,
c'était, tu vois. Non, mais pour ceux qui sont là. Et en même temps, du coup, tu vois, faire l'après-midi. Aussi un truc sur le sport, c'est le regarder, mais c'est aussi le faire et le vivre. Et parfois, on a des barrières mentales de dire le sport, c'est pas pour moi, je serai pas à la hauteur, nanana, machin. Et j'ai déjà des potes qui ont des clubs de rugby féminin ou même de foot féminin ou ou de foot tout court ou qui ont envie de faire des footings et tout, qui disent bah, en vrai on serait chaud, vas-y on prend une après-midi, deux après-midi pendant le temps de la Coupe du Monde et on forme des gens et gratuitement on vous ouvre nos portes pour qu'on puisse faire du sport. Donc à la fois tu retrouves les valeurs de sport, de dépassement, le soir t'as ce truc d'être ensemble et pourquoi pas faire comme ils ont fait aux events qui vous devez connaître sur Twitch ouais. bien,
tu vois,
d'en profiter pour faire une levée de fonds sur je sais pas, des assos qui développent le sport dans les endroits où ils ont pas d'argent pour le faire et où c'est un lien social hyper important dans des banlieues, dans des endroits. Je me dis que ça peut être cool. Voilà, du coup, ça vous dit.
On a eu l'annonce en avant-première. On a eu un gros leak.
Donc, on a créé un mail, je t'ai dit juste ça, qui s'appelle contrecoupe@gmail.com. En fait,
contrecoupe@gmail.com.
Pour les gens qui sont chauds, parce qu'en fait, c'est une idée, mais il faut qu'on le fasse ensemble, quoi.
Ok. Voilà. Contrecoupe@gmail.com, c'est ça ?
Ouais, trop bien.
Après, je dirais, pour pousser un petit peu le concept, comme tu disais tout à l'heure. Au-delà des valeurs du sport magnifique, etc., c'est vrai que les Coupes du Monde, c'est un moment pour tout le monde de se réunir entre amis, manger des chips, oui. boire des bières.
Oui,
et
voilà.
C'est bien aussi
et
de faire
a
ça.
Besoin, et on a besoin
et
de,
on a besoin
c'est
de
un
partager.
De
on a, on, voilà, on a besoin de partager une émotion commune. Donc, ça sera probablement trop tard pour faire ça, mais c'est vrai qu'une contre-coupe, ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose aussi qui soit passionnant comme des matchs de foot à regarder, où on puisse inviter ses amis à regarder ça en même temps.
Ouais. Certains disent et boire des bières.
Et boire des bières.
Oui,
parce
mais
que c'est important
juste
de boire
soirée,
des bières.
Tu vois
c'est,
oui. c'est se réapproprier en fait les valeurs des, qui sont aujourd'hui phagocytées par des industries qui, avec lesquelles ouais. on n'est pas d'accord sur le fond. Quoi.
J'ai une question très égoïste pour moi. Parce qu'en fait, moi, je me pose cette question, ouais. vous l'avez compris, de boycotter médiatiquement cette Coupe du Monde, c'est-à-dire de ne pas parler des résultats et des matchs. C'est super bizarre pour un journaliste, hein. Alors que ce sera dans tous les journaux que je vais lire ouais. Pendant cette période. Par contre, de continuer à parler des à côté, des débats que ça provoque. Moi, je me pose la question, pourquoi ? Parce que journalistiquement, déjà, j'ai lu un édito, je crois, dans La Voix du Nord, cette semaine, qui disait, mais journalistiquement, ce n'est pas possible. Le journaliste, il doit parler de tout ce qui se passe, et même des choses qui ne lui plaisent pas en tant que citoyen. Ouais, donc ouais. déjà, c'est un argument. Donc j'ai lu ok et après je me suis dit ça me met aussi en porte-à-faux parlons très égoïstement par rapport à mon employeur
France oui c'est ça c'est... j'ai demandé ouais, genre comment t'assumes un boycott bah, par exemple ici
bah oui.
et sur France Info
sur France Info le matin je vais donner les résultats des matchs parce que évidemment mes choix individuels je vais pas ne doivent pas impacter mon employeur qui sera sur l'autre ligne éditoriale qui est celle de la totalité des médias français quasiment sauf il y a le journal de l'île de la Réunion
ouais
qui a annoncé qu'il n'allait pas parler des matchs. Après, il y a des concurrents qui ont dit « Oui, mais enfin, ils n'ont jamais envoyé un envoyé spécial dans aucune Coupe du Monde. »
Oui, c'est ça.
Bon,
c'est ça.
Donc, c'est toujours pareil, la question de la récupération ou pas. Donc, moi, je me pose la question. J'entends, moi, ce discours, je le trouve pertinent. Mais est-ce que c'est cohérent pour un journaliste de ne pas de boycotter, c'est-à-dire de ne pas donner les résultats sportifs ? Est-ce que journalistiquement, donc, du coup, je te pose la question, cher
oui,
confrère,
ben, ouais.
et puis surtout... Comment pas mettre en porte-à-faux mon propre employeur, qui en plus France Info, qui est une relation de service public, qui fait du bon boulot, dont on peut se dire qu'ils ont un bon traitement de l'actu. Enfin, France Info, pour moi, c'est la meilleure des chaînes info, justement, parce qu'elle n'est pas dans le sensationnel, dans les plateaux où les gens se crient dessus, ou parfois portent des idées un peu bizarres. Et donc, je me pose la question, je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus.
Alors, au HuffPost, on s'est beaucoup posé la
vous
question,
aussi
on a fait des réunions dédiées à ça. On a la chance dans ce débat. Toi, c'est vraiment plus compliqué parce que tu as un espace sur Twitch, un espace sur France Info. Enfin,
ouais.
toi, voilà. Nous, au HuffPost, on sait très bien que notre lectorat, il ne vient pas pour lire les résultats sportifs. On n'est pas l'équipe, on n'a pas un service sport dédié, voilà. Donc, on sait déjà, merci, que ça ne va pas être dans notre ADN de suivre tous les matchs, on l'aurait pas fait en fait. Et en gros, nous, ce qui en fait notre ligne éditoriale, c'est parler de ce qui fait réagir les gens et ce qui les concerne vraiment. S'il y a un engouement national qu'on peut déplorer par rapport à toutes les valeurs et tout le débat qu'il y a sur le Qatar qui existe, mais s'il y a un engouement national pour l'équipe de France,
ouais.
parce que parcours incroyable, parce qu'on remporte la Coupe du Monde, j'imagine qu'il y aura plein de gens contents, que ça va être aussi les discussions de nos lecteurs et qu'on va s'appuyer là-dessus pour faire des articles en fait. Et en gros, nous, notre traitement est du coup, on va parler de ce qui fait débat, mais on va parler aussi de ce qui fédère les gens, parce que c'est comme ça qu'on fait.
C'est vrai.
Et donc, on s'est dit qu'on ne peut pas boycotter. Et même, par ailleurs, je trouve que c'est un fait d'info hyper intéressant, que malgré tout ce qu'on dit, imaginons que ça fait des audiences incroyables, les diffusions des matchs, et que ça remet les gens dans la rue pour célébrer la victoire de l'équipe de France. alors qu'on est en train de se dire que c'est une Coupe du Monde horrible qui a tué des gens et qui a 6000 morts pour moins de 6000 minutes
parce
de
qu'on est, parce qu'on est aussi peut-être dans une période, vu l'actu qu'on a connue ces derniers temps, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, ça va peut-être aussi être des moments pour retrouver, pour passer des moments un petit peu hors du temps, un peu léger. Et peut-être qu'effectivement, les audiences, notamment si l'équipe de France fait un beau parcours...
C'est vrai, ça va peut-être rassembler les gens, malgré tout. Et donc, nous, on s'est dit, on ne va pas s'interdire de le couvrir. On va, par contre, je ne sais pas, susciter des tribunes, susciter des interviews pour tous les sujets importants sur l'environnement, sur les droits de l'homme. Enfin, ça, on le fait et on fait vivre le débat actuellement. Mais on ne s'interdit pas de raconter ce qui va faire société en France. Et c'est pour ça que j'ai une grande question de est-ce que ça va faire société ? Est-ce qu'il va y avoir la contre-coupe qui va rassembler parfois plus de... Bon, je sais pas.
Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est important, comme je disais, tu vois, de quand même contrer et de s'organiser en tant que c'était pour juste pas qu'on soit toujours dans l'apathie. Qu'on soit pas toujours de on subit, en fait, à chaque fois, on n'est pas d'accord avec les valeurs et tout. Donc, toujours, on est dans l'interdiction constante. Non, on n'est pas d'accord. Peut-être on sera quelques-uns cette fois-ci, puis pour les prochains, et on va finalement remporter ce débat d'idées à un moment donné, si bien que ce sera les Coupes du Monde elles-mêmes qui se diront, en fait, on peut plus le faire maintenant comme ça. Et juste, j'en profite, c'est lacontrecoupe@gmail.com, pas juste contrecoupe. Je me suis fait gronder, donc du coup,
Là, il y a quelqu'un qui a le mail contrecoupe qui reçoit plein de mails.
En tout cas, moi, je suis en chemin parce qu'il faut que je me décide dans pas longtemps quand même. Et sur cette question du boycott ou pas sur ma chaîne Twitch, peut-être que la solution, tu viens de la dessiner, c'est-à-dire... de toute façon, c'est pareil, les gens ne vont pas venir sur ma chaîne le matin pour avoir les résultats. Les auront.
Oui, voilà. Donc, il y a des médias sportifs.
Il y a des médias sportifs.
Par contre, les discussions à l'équipe, j'adorais une petite souris pour savoir c'est quoi les conférences de rédaction, avec l'obligation d'être hyper serré sur tout et sur les
Le coup, moi, je veux pas... je vais les défendre. Le modèle économique, on connaît la difficulté de la presse écrite française. Et c'est dommage, parce qu'il faut que ces médias soient soutenus et qu'ils perdurent. La diversité de la presse écrite quotidienne nationale française, elle est essentielle. Les journaux ne sont pas en très, très grande forme, même si avec le numérique, certains vont un peu mieux aujourd'hui. Mais il faut soutenir cette presse, il faut la lire. Et un journal comme l'Équipe, dont le fonds de commerce, qui vend du journal, qui vend du papier.
C'est un peu compliqué quand même.
Moi, je veux pas qu'on. Pour le coup, moi, jamais je leur mettrai la pression en mode dis donc, et vous faites quoi pour le boycott ? Parce que ils peuvent pas sortir de ça, quoi. On est d'accord.
Pour ajouter une petite touche d'optimisme, et je reviens à ce que disait Camille tout à l'heure, le fait même qu'on ait ce débat, le fait même que l'équipe se pose la question, le fait même qu'on en parle avec un chat et qu'il y ait des désaccords, c'est un immense progrès. Je veux dire, je parle juste déjà de la question environnementale, parce que après les conditions de travail, c'est aussi un autre débat, mais sur le problème d'organiser une Coupe du Monde dans des pays où il fait trop chaud pour organiser ce genre de sport, pour être trivial, c'est un immense progrès. On s'est jamais posé la question avant.
Et c'est vrai que dans les médias, en règle générale, sur toute la question du réchauffement climatique, alors qu'avec l'été qu'on vient de vivre, et de la question des droits de l'homme au Qatar, la Coupe du Monde met, comme tu disais tout à l'heure, un éclairage exceptionnel qu'on n'aurait peut-être jamais eu si la Coupe du Monde n'avait pas été organisée là-bas sur les droits de l'homme et les conditions.
Tu vois, sur la question de la climatisation, nous, on est un pays peu climatisé. Mais tu vois, rien qu'aux États-Unis, alors eux, ils ne vont pas trop regarder la Coupe du Monde, mais imaginons, ils la regardent un peu.
Ça monte un peu.
Puis, des pays d'Asie où la climatisation, je veux dire, c'est à donf. Oui, t'as raison, vous êtes déjà allé en Asie, tu rentres dans un taxi, c'est un frigo, quoi. Nous, c'est pas notre quotidien, mais ces pays-là réalisent que, climatiser un stade ouvert, c'est débile. C'est ce qu'ils font dans leur ville. Je veux dire, tu vas dans beaucoup de pays d'Asie, c'est la porte grande ouverte, la clim à fond pour continuer à rafraîchir, et c'est une utilisation criminelle de la clim, quoi.
Moi, c'est marrant parce que je suis en train de me dire, finalement, c'était une bonne idée de donner la Coupe du Monde au Qatar, parce que sinon, on n'aurait jamais eu tous ces débats.
Ouais.
Il y aura peut-être du positif qui va en sortir.
Il n'y aurait pas eu non plus des personnes qui auraient construit des stades dans des conditions horribles. Donc tu vois, c'est. C'est bien d'essayer de rester positif.
Mais sur les conditions de travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces pays, et le Qatar n'est pas seul, ont des conditions de travail absolument horribles et personne ne les regarde, personne n'est allé rien leur dire. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que sous prétexte qu'ils mettent leur argent dans des équipes françaises, c'est hypocrite de leur reprocher des choses ? Au contraire, on est dans un monde mondialisé. Ils en profitent, ils peuvent acheter des équipes françaises. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller voir leurs conditions de travail. C'est donnant-donnant. Tu peux pas avoir que le beurre et l'argent du beurre. Il y a un moment, on va regarder ton pays, on va regarder comment les gens travaillent, et nous aussi, on va regarder comment les gens travaillent chez nous. C'est ça aussi la mondialisation, c'est le regard de tout le monde braqué sur les pays. Plus d'impunité, en fait.
Et dans ce contexte, en plus, il y avait une question que je m'étais posée, mais j'ai pas la réponse.
Si.
Est-ce que le fait de boycotter, par exemple, le fait de regarder des matchs, qu'est-ce que ça change pour la FIFA et le Qatar?
Imaginons que massivement les gens ne regardent pas.
Ouais.
Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Mais imaginons que les gens massivement ne regardent pas. C'est des audiences qui seront en baisse par rapport aux éditions précédentes, par exemple. Sur les chaînes, il y a des pubs, il y a des annonceurs qui attendent une certaine audience. Si la chaîne ne fait pas l'audience correspondante, elle doit baisser le prix de son spot. Mm. Et donc ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. Donc, la FIFA.
Ça, il faut des volumes d'audience énormes.
Important.
Tu vois,
important.
Oui, voilà, baisse de volume d'audience.
Je suis dans la théorie. Mais si à un moment, les chaînes, les gens qui ont mis de l'argent pour acheter les droits
c'est ça,
à la FIFA
la
disent à la FIFA, bah attends, t'es gentil, j'ai payé tant, mais en fait, les audiences ne sont pas du tout à niveau parce que les gens ont boycotté à cause du choix de pays de destination. Et ben là, il y a une pression qui sera mise sur la FIFA en mode, la prochaine fois, tu ne nous vends pas ça, ce prix-là.
Ouais.
Donc, oui. Je pense que ça peut jouer.
Si
les audiences n'étaient pas au rendez-vous.
Et puis sur les annonceurs, tous les budgets publicitaires.
Ça pourrait faire réfléchir à ce que tu disais au début sur les conditions d'attribution et peut-être que s'il y a un signe de conscience, qu'en fait la question des droits de l'homme et du réchauffement climatique, c'est à prendre en compte. Bon, après c'est cynique parce que ce serait seulement pour une logique de business de la FIFA. Mais c'est vrai que c'est comme ça que les choses évoluent.
Quelqu'un me dit les spots de pub sont payés avant, pas après. Oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil.
C'est pour
la prochaine fois.
Voilà.
Pour
la prochaine fois. En gros, la Coupe du Monde aurait moins de valeur et avec des risques de boycott, donc les investisseurs mettraient moins d'argent. Ce dont je veux pas lancer un autre débat, ce dont le sport a peut-être besoin, parce qu'il y a presque trop de flux financiers aujourd'hui
si
dans le sport.
Si tu nous emmènes là-dessus,
je n'y vais pas.
Pour la Coupe du Monde et les prochaines aussi, quoi, que ce soit les Olympiques, que ce soit les prochains.
On n'a pas trop parlé des Jeux Olympiques, c'est vrai.
Dans le chat, il y a tout. Il y a les gens qui s'enflamment, il y a les gens qui s'enflamment contre les gens qui s'enflamment. Et puis il y a quelqu'un qui me dit. Samuel, je pense que tu devrais remplacer les macarons par une autre pâtisserie. L'assiette reste quasiment pas touchée à chaque fois.
Mais oui, mais on n'a pas fini le salé.
Mais c'est pas mal. Non, c'est vrai. Moi, j'ai super faim.
Il y a pas une émission qui ressemble à une autre. Par exemple, en général, les gens touchent pas trop vite au petit four. Et là, le salé, par exemple, est parti beaucoup plus vite que d'habitude.
Voilà. Je n'ai pas dîné.
Moi non plus, j'ai pas dîné. J'ai même pas beaucoup de sandwich.
Après, s'il reste des macarons, je vous inviterai tous à la maison tout à l'heure. Vous êtes trop nombreux, c'est pas possible.
T'as pas le truc pour faire passer des macarons dans le chat?
Moi, j'en rêve en fait dans le futur de pouvoir. Moi, je suis très caféinomane. Ouais. J'adorerais par exemple servir des cafés aux gens à distance.
Ça serait énorme.
Ça demanderait beaucoup de technologie là.
Voilà. Ouais.
Là encore, il faudrait un nouveau modèle économique. Je sais pas, par exemple, là on est 4300 fois, on va dire 70 centimes le café.
Ouais, bon, là, tu vas avoir un problème.
Ça fait un budget. Mais je suis content d'avoir commencé par ce sujet avec vous. Moi, j'ai bien aimé les échanges qu'on a eus. Bon, du coup,
je pense que c'est la discussion qu'on va avoir dans les médias, entre nous, en fait, avec nos proches, sur est-ce que tu vas regarder cette Coupe du Monde et, en fait, et tout le monde aura des choses à dire. Je pense que c'est, ça aussi, j'y vois un signe positif. Le fait qu'on se pose des questions, que ce n'est pas automatique, et que même si des gens même vont défendre la Coupe du Monde au Qatar, ça va créer des débats autour d'eux et je pense qu'on vit quand même un moment très important sur tous les sujets qu'on a.
Vous savez que je dans les émissions un peu particulières quand je reçois des invités surtout, je vous remercie beaucoup moins que d'habitude pour les subs, les abonnements, les bits, vous savez, alors que j'aime le faire systématiquement le matin par exemple. Donc merci général à tous ceux qui soutiennent la chaîne et l'émission ce soir et qui nous permettent donc d'acheter des macarons, notamment Annie qui vient d'offrir plein d'abonnements à la communauté Annie.
On se rapproche du café servi chez tout le monde. C'est
quelqu'un qui soutient beaucoup la chaîne. Voilà, toujours au rendez-vous. Voilà. Donc merci beaucoup. Je prends des nouvelles de notre ami réalisateur Mathieu parce que moi j'aime bien que tout le monde soit à confort. Mathieu, tout va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose de t'hydrater, de coca, café, ce que tu veux, hein?
Tout va bien.
D'accord.
C'est gentil.
Il n'a pas de Chablis.
Hein?
Il a pas de Chablis. Ouais, c'est vrai,
non,
c'est
que... D'ailleurs, j'en non, profite. Pas d'alcool. Il est excellent. Hein. Ah. Ah, vraiment.
Le réalisateur ou le Chablis?
Les deux.
Les deux.
Les deux.
Non, mais,
les deux ont de la bouteille.
Pourquoi on parle du Chablis? Parce qu'en fait, Michael, en fait, nous l'a amené. Et puis, ouais. Ça, c'est un peu, ça vient de ta famille. C'est,
Alors, ça vient de ma famille. C'est-à-dire que la famille possède des vignes et qu'il y a des exploitants des vignes. Et on a, on a des bouteilles régulièrement. Et voilà.
Bah, il est vraiment délicieux. Quoi.
Ouais, c'est super. Mais j'ai mes grands-parents qui habitent dans le petit village de Lignorel.
Ouais.
C'est vraiment 200 habitants près d'Auxerre et donc près de Chablis aussi. Et ils ont grandi là-bas, ils connaissent tout le monde et ils sont amis avec des viticulteurs et j'ai toujours vu des vendanges à la, pas loin. J'ai bossé dans les vignes quand j'avais 14 ans, c'est mon premier boulot.
C'est chaud ça, non?
Ouais, c'est
dur. C'est physique, hein?
Ah ouais, ouais, c'était levé à 5h et tu bosses jusqu'à 14h et tu sais, tu mets les raisins pour que les machines, voilà. Donc
c'est quelque chose.
C'est un peu bourrin.
Mais alors moi, d'habitude, j'attends toujours pour boire un petit peu. Au bout de 2 heures de stream, une bière ou un verre de vin. Là, par curiosité, j'ai voulu goûter et il est vraiment délicieux.
Vraiment
quoi.
Très bien.
Ouais. Super.
C'est parfait parce qu'on passe à la sobriété.
Alors, merci, la sobriété.
Transition.
On parle bien de la sobriété énergétique, pas d'autre.
Je fais des masterclass de transition et sans faire exprès. Mathieu, merci pour avoir passé finalement ce deuxième plan en rouge. Ce deuxième titre ce soir, donc plan de sobriété énergétique 1, virage pour l'interrogation. Pourquoi j'ai fait ce titre? Alors, il ne vous a pas échappé que cette semaine, le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique, cette fameuse réponse qui était très attendue à tous ces gestes conseillés, sur la base du volontariat d'ailleurs, c'est intéressant, aux citoyens, aux entreprises, également au secteur public, à l'État, pour éviter les pénuries d'énergie, le blackout cet hiver en France. Donc, les mesures ont été annoncées. Voilà, on a le détail, pas mal de choses d'ailleurs. Et puis, le gouvernement tient un discours aussi qui est intéressant au-delà des mesures, qui est de « c'est pas que pour cet hiver ». Cet esprit de sobriété, il faudra le garder après, parce que de toute façon, au-delà même de la question de la production d'énergie en France, le débat sur l'énergie nucléaire, renouvelable, nos centrales un peu à l'arrêt aujourd'hui, tout ça, au-delà de la question de la production d'énergie, le gouvernement commence à nous dire, je dis « commence » parce que c'est assez nouveau comme discours, il faudrait commencer peut-être aussi à s'interroger sur notre consommation d'énergie. Ça, c'est quand même un discours que je trouve assez nouveau de la part de cet exécutif-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette séquence? Qui veut commencer?
Alors, moi, j'étais très curieux de savoir ce que Camille pensait, en fait, parce que un débat qu'on a eu à la rédaction, et même c'est notre ligne de traitement, c'est il ne faut pas confondre un plan de sobriété, et on pourra en parler en termes de mesures qui sont prises, est-ce que ça sert à quelque chose, et un plan de transition écologique. Je ne pense pas qu'on ait eu un plan de transition écologique, on a eu quelque chose qui s'adapte au contexte de pénurie énergétique. Et ça parle beaucoup de l'hiver prochain parce qu'on n'aura plus de gaz russe dans les tuyaux à l'hiver prochain, celui de 2023. Donc de fait, il faut qu'on s'adapte. Mais je n'ai pas l'impression que le gouvernement a fait une transition écologique incroyable. Et je m'interrogeais à...
Je vais essayer de ne pas être... Tu m'arrêtes parce que j'ai trop de trucs à dire là-dessus. J'essaie de me concentrer pour répondre à certains trucs.
On a calé l'invitation de Camille en dehors de l'actualité, je ne cale pas forcément les invités en fonction de l'actualité, mais c'est pour le coup que tu sois avec nous ce soir.
Oui, non, mais je suis très contente. Moi, c'est mon gros sujet. Ouais. Je vais dans les médias pas mal, sinon pour parler de ça.
Bah ouais.
Mais pour essayer d'être clair, en gros, il y a différentes. Enfin, qu'est-ce que c'est la sobriété? Ce qu'on parle, ce mot, c'est pas vraiment totalement ce que ça veut dire. Il y a une récupération sémantique du gouvernement de ce que ça veut dire la sobriété. Donc, dans la bouche, et je reprends juste leurs mots, sans jugement de valeur, c'est pour eux la sobriété, c'est en fait l'efficacité énergétique, c'est-à-dire on va faire des éco-gestes, et c'est Elisabeth Borne qui l'a dit dans son discours, pour juste consommer un petit peu moins, mais on ne remettra pas en cause la production. Donc le but, c'est, on essaie un petit peu et on fait peser, c'est une sobriété qui est égalitaire, c'est-à-dire on dit à tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, baissez votre chauffage de 1 degré. Sauf qu'en fait, moi, ma sobriété, en tout cas celle de pas mal d'écolos, la vision, c'est plutôt une sobriété qui est non pas subie, mais qui est choisie. C'est de dire, en fait, pour certains, il y a beaucoup de Français et de Françaises aujourd'hui qui peuvent même pas se chauffer à 19 degrés. Donc on peut pas juste dire à tous les Français, baissez de 1 degré le chauffage pour atteindre 19 degrés. C'est comment est-ce qu'on crée un plan concret, collectif, pour que tous les Français et les Françaises puissent vivre dignement, puissent se chauffer, ne pas choisir entre l'hiver, entre se chauffer ou se nourrir, parce que c'est quand même vraiment ça parfois. Et ça voudrait dire du coup avoir une réponse qui est non pas égalitaire mais équitable. Et c'est demander plus à ceux pour qui ça coûte le moins.
C'est une question de justice.
C'est une question de... Et la question de justice, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale dans cette question de sobriété. Donc, en effet, et tu l'as très bien résumé, je ne l'avais pas vu comme ça, tu vois, pensé comme ça, mais c'est une sobriété qui est pour l'hiver. C'est une sobriété qui est de dire, bon, bah, on a dû, et à juste titre, heureusement qu'on l'a fait, faire des sanctions parce que plus de 40% de notre gaz venait de la Russie au niveau européen et on n'a pas envie de financer la guerre. Faut quand même se rappeler que dans les 100 premiers jours de la guerre, on a donné plus de 50 milliards d'euros d'un point de vue européen à la Russie par nos dépendances à leur énergie fossile. Donc c'est quand même un gros truc. Et donc du coup, oui, pour moi, c'est vraiment ça la question, c'est de dire comment est-ce que, à la fois, je suis trop contente qu'on parle de sobriété enfin dans ce gouvernement, ouais. Parce que tu vois, c'était assez marrant quand on nous parlait de, mais vous êtes des Amish, vous parlez de produire moins, de consommer moins, mais on va revenir à la lampe à huile, mais c'était inaudible il y a encore 6 mois en fait cette question-là. Et là, de voir le gouvernement qui dit il va falloir qu'on consomme moins, c'est un débat qui est super intéressant et que je suis contente qu'on ait, mais il faut qu'on fasse vraiment très attention à ne pas laisser de côté la justice sociale. Parce que là, on se retrouve avec des trucs absurdes où on n'a absolument aucune mesure contraignante. Donc, on a des gens qui continuent à prendre des jets privés et on a des facs qui ferment.
Ouais.
La fac de Strasbourg a annoncé fermer 2 semaines. On a des piscines qui, parce qu'elles ne peuvent pas payer, décident de fermer des piscines publiques. Mmh. On peut dire, bon, une piscine, mais en fait, pour beaucoup de gens, c'est leur seul moyen d'apprendre à nager. Donc, il y a un vrai enjeu derrière là-dessus. Et pour moi, c'est comment est-ce que le gouvernement, il est capable de prendre des mesures contraignantes pour les plus riches, parce que c'est ceux qui consomment aujourd'hui le plus d'énergie fossile d'un point de vue proportionnel, et en même temps qui permet à chacun d'avoir accès à une vie décente. Donc c'est un débat qui est en fait super intéressant, qui est aujourd'hui pas encore vraiment bien pris pour moi, en tout cas, par le gouvernement.
En tout cas, qui est pas porté par cet exécutif.
Qui est pas porté par cet exécutif, ouais, clairement.
Oui, c'est ça.
C'est la question que vous vous posiez, en fait. Mais
Oui, mais c'est quelque chose qu'on... Enfin, il y a plein de choses dans ce moment de sobriété dont on peut parler, le fait qu'il y ait plein de choses qui ne soient pas contraignantes.
En fait, la plupart, enfin, le pari du gouvernement, si j'ai bien compris, c'est pour l'instant rien n'est contraignant si les efforts ne sont pas faits par les ménages, par les entreprises, par les administrations publiques, qui ont pas mal à faire. Eh bien, il y aura des mesures contraignantes. Aujourd'hui, le discours, c'est ça.
C'est vrai, mais on a eu quand même un exemple, donc il y a 2 ans, d'un moment qui est le Covid, où quand le gouvernement veut être contraignant parce qu'il y a une urgence,
bien sûr,
on met tout le monde chez soi. Exactement. Et on sort avec une feuille de papier. Et on l'a tous fait. C'était fou, on avait un peu peur, voilà. Et on sait que le gouvernement peut être contraignant et on sait que les gens obéissent quand il y a un enjeu énorme. Et là, le fait qu'ils commencent par du pas contraignant, alors que je pense qu'il y a des enjeux énormes aussi, moi, ça m'interroge beaucoup sur le manque d'ambition, en fait, sur le fait que déjà, il y a la question énergétique et de comment on tient globalement et comment on continue à nous éclairer et à faire à consommer de l'électricité. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ne sont pas allés dans une transition écologique que d'autres partis peuvent défendre ou que d'autres associations ou activistes peuvent appeler, avec des choses beaucoup plus, soit même pas radicales, mais en tout cas plus ambitieuses. Pour limiter les choses et qu'on aborde vraiment. Et le débat est important et c'est bien qu'on entende le gouvernement en parler. Par contre, sur ce qui va se passer concrètement, là, j'ai vraiment beaucoup de doutes et limite, j'ai peur que ça ait un effet inverse,
T'es en train de nous dire que tu penses pas que les Français... vont entendre les consignes et les appliquer ?
Bah, je pense que si. Ce sera nécessaire et on rigole sur les cols roulés des ministres, on rigole sur ce genre de choses. De fait, je pense que oui, il va y avoir des questions de chômage, mais qui seront liées à de l'argent, genre comment on paye pour se chauffer. Ce que tu disais, il y a des gens qui peuvent même pas se chauffer. Mais est-ce qu'on est vraiment sur la voie d'un changement de modèle de société ? Pour la transition écologique, j'ai pas entendu
non,
ça non plus,
non,
tu vois.
Non, aujourd'hui, non.
Moi, je suis assez d'accord. Moi, j'ai un petit peu peur que, avec ces mesures, on se dise c'est parce qu'il y a la guerre de l'énergie, en fait, aujourd'hui, sans prendre conscience, enfin, sans réaliser que si d'abord il y a ces conflits, c'est aussi parce qu'il y a un problème beaucoup plus vaste. Et moi qui suis en train de complètement shifter sur toutes ces questions-là, je trouve que même le choix des mots, parce que le choix des mots est important, est-ce qu'on est encore avec des mots soft comme sobriété ou transition ?
Ouais.
Là, on n'est plus dans « attention, il va y avoir un problème », on est dans le problème, on n'est plus « la maison brûle, on regarde ailleurs », on est en train de cramer. Mmh. Est-ce qu'il ne faut pas parler de révolution ? Est-ce qu'il ne faut pas parler... Et je pense que le gouvernement a été très échaudé, effectivement, par une contre-réaction par rapport à une autorité pendant la crise sanitaire. Mmh. Et ils ont très peur de faire preuve d'autorité sur cette crise énergétique.
on peut pas leur donner complètement tort parce que je pense que là, ça va partir dans les rues si.
D'autant.
Mais
si c'est bien fait,
mais est-ce que le problème, il est. Non, j'aime pas classer les problèmes parce que c'est des débats stupides. Mais là, on n'est pas dans du soft, on n'est pas dans oula, il faut sauver la planète pour nos générations futures.
Mais pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, c'est intéressant. Et Camille sera peut-être pas d'accord, mais le gouvernement aujourd'hui est pas sur de l'ambitieux, sur du coercitif, alors que Michael nous disait.
Je suis pas fan du coercitif.
Non, mais Michael disait il y a urgence, il faudrait quand même imposer des choses, voilà. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce que la population française à qui serait demandé de respecter ces règles craint autant cette crise énergétique qu'à un moment elle a pu craindre le Covid et la crise sanitaire? Je pense que la réponse est non. Et je pense que le gouvernement, de toute façon, même s'il avait voulu, même s'il avait songé à des mesures coercitives, il s'est dit politiquement c'est impossible à prendre parce que les gens vont ruer dans les brancards parce que on n'y est pas encore. Il n'y a pas les coupures encore. On n'a pas le nez dedans en fait. C'est encore théorique. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y avait un risque politique.
C'est là où il y a un doux mélange entre les éventuelles coupures énergétiques et le problème plus global quand même. Le problème écologique global, on est déjà dans l'accident. Enfin, je sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on... Le Covid, il y a eu des mesures strictes parce que ça tuait plein de gens. On va pas rentrer dans le débat. Là, on va tous y passer, quoi. Donc, ça me paraît presque un problème plus important.
Et on sent, par ailleurs, que par rapport à ce que tu disais sur la justice écologique, et qui doit faire des efforts par rapport à, en gros, qui émet le plus de pollution, qui... Il y avait une étude, enfin, je ne sais plus exactement l'étude, mais j'ai entendu un collègue en parler, qui disait qu'en gros, il y avait 50% des Français qui émettaient vraiment très peu par rapport aux 10% les plus riches, en fait.
Et les 10% les plus riches émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont émises par 10% de la population.
Et au niveau mondial, c'est pire.
Et on sent qu'il y a quand même aussi une prise de conscience qui est, bon, bah, on est sympa à mettre le chauffage à 19 et à arrêter le Wi-Fi, mais quand il y a des stades climatisés...
Et là, on en revient à la justice climatique.
Voilà, c'est
dont
ça.
Dont parlait Camille tout
et
à
là,
l'heure.
Et ce sujet n'a pas du tout été abordé lors des annonces du gouvernement.
Peut-être, je deviens très politique, peut-être parce que c'est pas le bon gouvernement pour le faire, pardon, mais cet exécutif, il a aussi une couleur politique. Hein, c'est pas un gouvernement ELV, quoi. Hein, on est d'accord. Non. Donc, le président Macron, les lignes fortes de son discours pendant son premier quinquennat et pour cette campagne pour le deuxième, on peut pas dire que l'écologie ait été extrêmement présente. C'est juste un constat, hein, on est d'accord.
Non, mais je partage totalement vos analyses. C'est que, en fait, c'est parce qu'on est en effet en train de réagir une fois de manière. En fait. On est toujours en réaction avec ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant la pandémie, en fait, on le sait depuis longtemps qu'on rentre dans le siècle des pandémies. Il y a plein d'épidémiologistes qui le disent parce qu'on vit dans un monde mondialisé, parce qu'on rentre beaucoup plus en contact avec avec des animaux sauvages qui nous transmettent ce qu'on appelle des zoonoses, donc c'est-à-dire une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme. Et ça, on le sait, l'élevage intensif y participe, etc., etc. Donc, on avait les moyens de s'y préparer. De la même manière, pour la crise énergétique, en gros, il faut savoir en fait, on pouvait la prévoir depuis déjà longtemps. On sait que notre dépendance aux énergies fossiles, d'un point de vue massif vers la Russie, va à un moment donné poser des questions, que ce soit la Russie. Mais du coup, là, ce que le gouvernement fait, c'est aller se tourner vers les Émirats Arabes Unis. Est-ce que c'est vraiment des régimes qu'on a aussi envie de soutenir? En vrai, je suis pas sûre. Ça pose des questions aussi de droits humains. Donc, il y a ce truc où on aurait pu les voir venir. On sait à un moment donné que ce n'est pas durable. On base le développement de nos sociétés sur des ressources qui sont limitées. Donc, on sait que ça arrive. Et là, arrive cette crise de l'énergie et d'un coup, on est en mode, il faut qu'on fasse vite et tout ça. Et la question, c'est pas tant les coupures. Parce qu'en soi, avoir une coupure à un moment donné, l'électricité deux heures. Moi, j'ai vécu en montagne, ça m'arrivait super souvent. Il neige, le truc tombe, on a la bougie, on s'en remet. C'est pas là où c'est très grave. Là où ça peut être grave, c'est pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les gens qui sont en dépendance respiratoire. Pour cet hiver, on ne va pas être dans ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. En soi, la pénurie, on ne manque pas encore d'énergie. Juste, on anticipe le fait qu'on va potentiellement manquer d'énergie. D'où le fait qu'on parle de super profit, c'est aussi parce que, en fait, du coup, en anticipant cette pénurie-là, les compagnies pétrolières, les compagnies de gaz, etc., augmentent leur prix pour dire, bah nous, il faut qu'on s'y prépare, quoi. Donc, en fait, c'est un truc qui est très de l'anticipation, qui crée une espèce de bulle et qui fait qu'on ne parle pas du sujet de l'écologie. Mmh. Et tu vois, sur ce truc de, tu disais Samuel, mais en fait, les mesures, elles auraient peut-être pas pu être acceptées ou quoi. Mmh. En vrai.
Parce qu'il faut que la société française soit en résonance.
Mais je suis bien d'accord.
Les accepter.
Mais
par exemple, et je voulais te poser la question, je suis content de t'avoir, parce qu'il y a une question dans le chat qui fait beaucoup réagir tout à l'heure, c'est Naswer Dawer qui dit, qui disait, mais 30% des Français pensent que le changement climatique est naturel. Toi qui connais bien ces questions, est-ce qu'il est vrai qu'on a quasiment un tiers de la population française qui pense que le changement climatique est naturel et pas dû à l'homme? Ouais. C'est vrai, on est sur ces bons postes-là ou pas?
Alors, c'est une statistique, c'est une statistique qui a été faite, c'est une enquête qui a été faite. Les enquêtes, elles sont toujours sur un nombre limité de personnes. En tant qu'un, c'était moins de 10 000 personnes. Mais c'est assez grave. Et ce que ça dit, c'est quand on regarde aussi le nombre de platistes, le nombre de gens qui pensent encore que la Terre est plate, c'est hallucinant.
En France
le chat, allez-y trouver ces chiffres-là en France, aux États-Unis. Ah, mais il y a encore vraiment des platistes.
Poser la question,
parce que je sais qu'aux États-Unis, chez les partisans de Trump, il y en a pas mal.
Ouais. Mais je te jure, c'est hallucinant.
Pour pas dire du mal de.
C'est pas un tiers, mais il y a quand même encore beaucoup de gens. Et on se dit, mais je te jure, il y a encore beaucoup
de
gens.
Vous trouvez la statistique?
Et en fait, c'est se dire que. Et on l'a vu avec le Covid et tout. Ce truc de dire la science ne convainc pas toujours. Et en fait, on a toujours besoin de faire ce travail, de rappeler les faits, de se battre pour la vérité.
Certains parlent de 9 à 10% des Français.
Tu vois ? Non, mais ça fait 1 Français sur 10. Ouais. Tu prends 10 amis, t'en as 1 sur 10, statistiquement, qui pense que la Terre est plate. Donc en fait, ça dit vraiment quelque chose d'intéressant.
Il y a plein de gens qui disent, comment ça, la Terre est ronde.
Vous êtes drôle.
Y a-t-il les mêmes problèmes écologiques sur une Terre plate qu'une Terre ronde?
1 Français sur 10, mais.
Mais voilà, moi ça m'a fait le même effet.
On parle beaucoup sur notre métier.
Il faut rappeler. Et en fait, c'est un biais cognitif qu'on a qui est super intéressant. Nous, on était en Islande avec des glaciologues l'été dernier pendant un mois et ils nous disaient tous, c'était le truc qui m'a le plus frappé. Vous avez pas l'impression de crier dans le vide et tout, ça vous fait pas bizarre? Il dit, mais le problème, c'est que dès qu'on a découvert quelque chose, on passe tellement de temps à découvrir une info que dès qu'on l'a découvert, on a l'impression que tout le monde le sait. Comme quand on apprend une info et qu'on passe du temps à chercher sur la presse, on dit, ça y est, le monde le sait, juste je fais partie enfin des gens qui le savent aussi.
Et en fait, non.
On a ce devoir de transmettre le savoir. Le savoir, ça devient un pouvoir à partir du moment où on le transmet, donc c'est hyper important de le faire.
C'est pas facile. Tout le monde a vu ou verra Look Up. Présente bien ce problème, le film sur Netflix. Qui avait des maladresses hollywoodiennes, on va pas faire la critique du film, mais qui avait quand même des points hyper intéressants, et notamment un qu'on a peut-être moins noté, c'est les problèmes de communication des scientifiques, qui n'arrivent pas à communiquer correctement, et c'est pas des communicants, les scientifiques, c'est pas leur job non plus. Et c'est là où probablement il y a effectivement un travail à faire, c'est prendre le message scientifique. Et arriver effectivement à le rendre facile à comprendre.
Juste
aussi.
Un truc, parce que là on va devenir riche et on va pouvoir s'acheter plein de macarons, parce que j'adore, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour par rapport à nos débats. Il y a Snutraer qui était très surpris par le 1 à 1 Français sur 10 qui pense que la Terre est plate. Il me dit, je file 30 subs si vous me montrez une source sur les 10% de platistes. Tu trouves ça en 2 secondes, parce que même moi je m'interrogeais.
Un Français.
Et tu dis FOP. C'est publié par National Geographic. Je vous mets le lien dans le chat.
Ah, tu vas devenir riche là.
Mais c'est dingue. Attends, 1 Français sur 10 pense que la Terre est plate. Et tu
dis ça dit vraiment quelque chose de hyper intéressant.
Plus de 9% des Français croient possible que la Terre soit plate et pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. C'est publié par National Geographic. Je vous mets le lien dans le chat. Et donc c'est 30 subs.
La vache. Voilà. T'as compris.
Tu vas lâcher 100 balles quoi.
La soirée est financée.
Okay. Mais c'est incroyable. Et donc, mais moi je voulais pas y croire. Et en fait, si, il y a les enquêtes qui disent ça quoi.
Donc d'où l'intérêt en fait de toujours continuer. Et pour revenir sur ce débat sur la sobriété, il y a aussi un truc quand on dit les gens vont pas accepter, parce que pour le confinement, il y avait ce truc où tout le monde devait faire le même effort, on était tous plus ou moins dans le même mood. Il y avait beaucoup d'inégalités.
Il y avait toujours des petits malins qui.
Voilà, ouais, oui, bien évidemment. Mais
finalement, moi j'ai eu très surpris de l'acceptation.
Ça s'est vite arrêté, les bling bling.
Ça, on est hyper d'accord. Mais il y a quand même ce truc de te dire, je pose poser la question si vous voulez, dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez, mais si je vous dis que un avion sur 10 qui part en France, qui décolle en France, c'est un jet privé.
Ça, c'est vrai.
Un avion sur 10 qui décolle. Je dis souvent des choses vraies, je fact-check mes chiffres.
Non, mais c'est des chiffres tellement énormes qu'on se dit.
C'est hallucinant. En fait, c'est pas du tout anecdotique ce qui se passe. Et ça émet encore plus que l'avion. L'avion, pour vous donner un ordre de grandeur, un aller-retour Paris-Indonésie, genre, c'est 5 tonnes de CO2 par passager, si on fait pas d'escale. si le GIEC nous dit que si on voulait garder un monde viable, pas dépasser les fameux 1,5 degrés, on devrait émettre maximum de chez maximum 2 tonnes de CO2 par français et par an. Donc en fait, la question de l'aviation, elle pose un vrai sujet. Sur pourquoi je parle de la sobriété, c'est parce que le gouvernement, Elisabeth Borne, j'ai lu ça cet après-midi, j'étais morte de rire, a dit « J'appelle à l'exemplarité des détenteurs de jets, vraiment, s'il vous plaît, quoi. Ouais. » Et j'imagine, je ne sais pas qui prend... Type qui a son jet privé qui se dit oh,
je... ouais, bah
c'est
non,
vrai
alors je vais
parce
annuler.
Que quand même je vais non la sobriété
non
à un moment ouais. donné on peut très bien décider de les interdire l'aspect récréatif des jets privés dire bah vous prenez au moins un avion de long courrier comme tout le monde et en plus on pourrait aussi taxer les billets de train parce que les billets de train il faut savoir que c'est le kérosène c'est le seul carburant qui n'est pas taxé de tous les carburants
là,
donc
y a
quand
un
tu mets un litre de kérosène qui vient du pétrole dans ton jet privé ça te coûte moins cher que de mettre un litre d'essence dans ta voiture pour aller travailler et gagner un SMIC donc il y a aussi des choix politiques forts où je pense qu'une large majorité de la population serait d'accord pour le faire. Cette question de la niche fiscale là sur le kérosène, le fait que ce soit le carburant le plus polluant mais qu'il soit pas du tout mis en enfin qu'il soit pas taxé. Bah, tu demandes aux gens et après ils seraient chauds. Enfin, je pense qu'il y a à part ce qu'on
non,
te
mais
dit,
on
soit,
a en droit de demander.
Camille,
vous
voulez bien dire taxer les billets d'avion, elle voulait pas dire parce que tu as dit train.
Train.
Ah non,
ouais,
non, l'inverse.
Non,
merde, pardon.
C'était bien.
Justement pas. Justement pas.
Justement,
justement
le train, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est trop cher, que ça devrait être moins cher.
Mais tu...
Et justement, on pourrait financer plus le train. Tu vois, comment est-ce qu'on met cette question de justice sociale là-dedans ?
Moi, j'ai une question, mais c'est un peu pour relancer le débat et un peu pour faire l'avocat du diable parce que c'est toujours intéressant. J'entends tout à fait le discours, effectivement, il y a un très faible pourcentage de gens très riches qui polluent beaucoup plus que le reste de la population, et même si on extrapole au niveau du monde, il y a un très faible nombre de pays qui polluent beaucoup plus que les autres. Mais en tenant trop ce discours, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de désengagement ?
Ouais, je comprends.
En fait, pour moi, il y a quand même quelque chose dans l'écologie, au sens large, et dans le... Bah, la descente aux enfers qu'on est en train de prendre en ce moment, quelque chose de très profond dans notre humanité a changé. C'est-à-dire, qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la productivité, qu'est-ce que la croissance, c'est des choses fondamentales. Et si on caricature le débat en disant, bah, en fait, si les riches le faisaient, bah, nous, on n'aurait rien à faire. Et on a vu ça avec la France quand il y a eu ce chiffre disant la France ne contribue qu'à 1% de la pollution du monde. Pourquoi nous, on ferait des efforts alors qu'il y a des pays qui polluent beaucoup plus? Donc, il y a un petit danger, je trouve, dans ce type de discours
bien
de
sûr.
Dédouanement, en fait. Moi, je pense qu'il y a quand même, et c'est encore une fois, je suis d'accord qu'il y a des gens qui ne devraient pas avoir le droit de polluer autant, et notamment sur les jets privés. Mais attention au discours qui risque de dédouaner les gens. Et...
Je suis super d'accord avec toi, et c'est pour ça que je te rappelle quand même toujours que chaque tonne compte. Que chaque tonne de CO2, c'est une quantité de banquises qui ne font pas, donc une montée des eaux qu'on évite, donc des espèces qu'on sauve, etc., etc., etc. Donc vraiment, en fait, chaque tonne est importante. Il faut en effet appeler à la responsabilité de chacun et de chacune, mais... C'est aussi important de rappeler aux gens que l'écologie, c'est pas juste un truc punitif chez toi où t'es là, où tu fais ton petit zéro déchet. C'est super, c'est bien. Arrêter de prendre l'avion au maximum, manger végétarien au maximum, réduire le plastique au maximum. On est d'accord. Mais surtout, en fait, engagez-vous collectivement. Parce que là, on a des vrais... Quand on a un peu de temps comme ça, quand on a vraiment dans une espèce de forme d'urgence, c'est hyper important qu'on prenne les leviers qui soient les bons, qui soient les leviers d'action collectif. Et qui permettent, du coup, d'avoir des mesures qui sont dans un esprit de justice sociale. Parce que comme ça, on évite aussi la fracture sociale. Parce que si on dit juste aux gens... S'il vous plaît, faites un effort tout le monde. T'as des gens qui disent mais moi j'ai déjà deux jobs pour payer mes études, je gagne absolument pas ma vie, je peux pas me nourrir correctement,
et puis,
dignement.
Et j'ai pas de voiture et.
Ou alors les gilets jaunes, ou alors bah écoutez, vous êtes marrant avec votre taxe carbone, mais moi je ne peux pas ne pas prendre ma voiture, je n'ai pas d'autre choix parce qu'il n'y a pas les infrastructures collectives, il n'y a pas de métro qui vienne jusque dans ma banlieue, ou alors j'attends 12 000 ans et c'est trop cher
parce
et machin.
Parce que je suis allé vivre là parce que l'immobilier était moins cher, et donc je suis obligé d'avoir une bagnole qui n'est pas hybride parce qu'effectivement c'est une vieille voiture d'occasion et qui pollue effectivement, mais je ne peux pas faire autrement et je suis déjà au limite
exactement.
De mon budget.
D'où l'intérêt de porter ces discours-là, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça ne veut pas juste dire du coup être là et râler sur ton canapé en disant mais c'est la faute des ultra riches, c'est remettre en question là-dessus, vous pouvez faire votre empreinte carbone pour voir. Moi, c'est en faisant mon empreinte carbone que je me suis dit bah l'avion, ma cocotte, il va falloir arrêter parce que je ne me rendais pas compte que ça représentait autant d'émissions en fait dans mon quotidien. Donc ça, c'est intéressant de faire votre empreinte carbone pour vous voir là où vous avez des marges de manœuvre que vous pouvez faire.
Il y avait un test, il y avait un site où on pouvait faire un test très précis là. Mais je...
My Carbon Footprint, ouais. Il y a ça. Il y a
Julien Pain de France Info qui était à ta place il y a quelques semaines et qui a fait ça. C'est-à-dire que lui, il est très sensible aux questions écologiques. Et puis il râlait sur sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs, qui faisaient pas le tri, etc. Et tout. Et puis lors d'un repas de famille, chacun fait son calcul. Hein. Et comme Julien, il voyage un peu, il prend l'avion, en fait, il était celui de la famille de très loin qui polluait le plus.
Bah oui,
il en a pris
sûr.
Conscience ce soir-là.
C'est génial.
Il a réfléchi au déplacement en avion, alors qu'il était a priori le plus sensible à ces questions-là. Mmh. Donc à chacun de faire son petit calcul.
Bien sûr, et puis pour finir là-dessus, mais il y a quand même une étude de Carbon 4 qui est sortie qui montrait qu'en fait, si tous les Français étaient parfaitement écolos dans leur quotidien, mais genre même 100% vegan, absolument rien de neuf, aucun... En fait, on réduirait que de 25% les émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup. On en a vraiment besoin.
Au niveau de notre pays.
D'accord. On a vraiment besoin, c'est hyper important. Mais ça veut dire qu'il y a 75% qui pèsent aussi sur les entreprises, sur l'État, sur les collectivités.
Bien sûr, ouais.
Donc il faut... Moi, je vois un peu proportionnellement, c'est-à-dire que 25% de mon énergie et de mon temps, je le mets aussi sur moi, être cohérente avec mes gestes. Mais une grande partie, c'est aussi... aller t'engager dans des associations. Quand je vote, je fais très attention à ça. Comment est-ce qu'on engage et on se mobilise d'un point de vue citoyen, en fait? C'est aussi ça, la question.
Moi, je voudrais bien votre avis à tous les trois sur quelque chose qui m'est beaucoup dit dans le chat sur ces questions. Quand je dis, il faut qu'on fasse des efforts, chaque geste compte, Et c'est la somme de nos petits efforts individuels qui va peut-être changer la donne. Alors moi, j'ai quelque chose qui revient beaucoup. Je dis, oui, mais Samuel, mais les gros pollueurs, c'est pas nous, c'est la Chine. Alors pourquoi nous on ferait si eux ne font pas? Moi j'aimerais bien votre avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on répond à cet argument, parce que je l'entends intellectuellement, il a du sens, en disant mais les gros pollueurs c'est pas nous, il faudrait d'abord que eux fassent et nous on fera.
Qu'est-ce qu'on répond à ça? Camille a déjà répondu sur le fait que chaque tonne compte.
C'est
essentiel, parce que
c'est une prise de conscience sur... Je me suis dit que toi tu devais le voir dans la tech, c'est-à-dire
bien sûr
que le milieu de la tech et des constructeurs de smartphones, d'ordinateurs et tout ça, c'est quand même ils poussent à la consommation et au changement de téléphone tous les ans ou tous les 6 mois. Par exemple, par rapport à un plan de sobriété du gouvernement ou des actions individuelles, le fait que Apple, alors non, pas Apple, ça va pas parce qu'ils sont peut-être plus durables, mais que des marques fassent des smartphones ou des ordinateurs qui ne sont pas réparables, qu'on doit jeter, comme ça. Ça a un impact incroyable sur notre pollution globale. Et je me dis que il y a à la fois les petits gestes individuels, mais sans doute aussi des prises de conscience dans des tas de secteurs qui sont pas ceux portés par le gouvernement, qui sont ceux... Et moi, par exemple, je fais attention à mes ordis. Maintenant, je réfléchis avant de jeter. J'essaie que ce soit réutilisé tout le temps ou donné à des associations quand quelque chose marche plus ou pour les réparer. Et ça, je sais pas si on peut le quantifier par rapport à la tonne, au nombre de tonnes qu'on émet par personne et tout. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment multi. J'ai des enfants, et alors l'empreinte carbone des enfants. J'ai des jumelles en plus, donc tu sais, quand au début il y avait des couches et que t'as 14 couches par jour, tu te dis alors après il y a des couches lavables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans les grands sujets qui ont été abordés par le gouvernement et le chauffage et tout, il y a quand même tout un pan de nos actions qui sont pas du tout abordées, qui sont sans doute plus importantes et qui concernent les entreprises et la consommation capitaliste et tout ça.
Dans le chat, je te laisse la parole après Jérôme. Dans le chat, on participe bien sûr. J'essaie de vous lire maximum. Et sur l'histoire de la Chine, on répond aussi à cet argument en disant, un, la Chine pollue pour nous, par notre consommation, nos vêtements qu'on achète. Vous dites c'est la Chine qui pollue, mais en fait c'est nos achats de produits chinois qui polluent.
Donc c'est nous, par
notre importation. Et autre chose, quelqu'un me dit, certains disent que la Chine pollue beaucoup plus que nous, quelqu'un me dit dans le chat, mais pas du tout. En fait, si, rapporté par habitant, le français pollue beaucoup plus que le chinois. Rapporté par notre comportement de consommation.
Mais il y a aussi un phénomène, et ça c'est dans le développement des pays et de l'humanité. La Chine est quand même rentrée dans la consommation de masse beaucoup plus récemment que nous. et ils sont beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire que nous, la consommation de masse venue des États-Unis dans les années 50, les 30 glorieuses, avant il y avait quand même des choses qui polluaient, mais on a clairement eu comment dire, une société d'abondance, la société qu'on appelle des boomers, ouais. Où vraiment il n'y avait pas de limite et on pouvait tout acheter, il n'y avait pas de problème et tout ça. Là, j'ai l'impression que la Chine, ça fait, je sais pas, 10 ans, 20 ans qu'ils commencent à avoir ce sentiment. Et par ailleurs, j'imagine que pour la politique, enfin l'État chinois, c'est ouais, on distribue du bonheur aux gens. Et je, comment dire, je dis pas que c'est bien qu'ils rentrent dans un marché de masse où ils se mettent à acheter des voitures à tout va, des équipements électroniques à tout va et tout. Mais il y a à côté, j'ai l'impression qu'il y a plein de pays qui vont se dire, bah les Occidentaux, la France, les États-Unis, vous faites ça depuis des années. Pourquoi nous on n'a pas le droit,
pourquoi
en fait, pourquoi nous on peut pas s'engouffrer dans le modèle qui est finalement le modèle mondialisé de la consommation capitaliste.
Vous avez eu le droit. Ouais, voilà. Nous on n'aurait pas le droit. Hein, on entend ça aussi.
Ouais, le truc, c'est que les problèmes écologiques, et j'entends tous les discours que la justice sociale est hyper importante dans les solutions écologiques, mais les problèmes écologiques seront complètement aveugles. Les riches, ouais, les pauvres seront touchés. Enfin, c'est un problème global d'une humanité. C'est l'humanité, hein, qu'il faut sauver, pas la planète, ou en tout cas des espèces vivantes. Si on veut pas dire que c'est le début du règne des cafards et des scorpions, parce que c'est les seuls qui survivront. La planète, elle continuera. Hein. C'est juste nous qui risquons de disparaître. Donc, je me dis quand même que de dire tel pays pollue plus, c'est aussi des manières de tourner autour du pot, ouais, de se disculper. Et on peut appliquer ça au niveau personnel. Moi, c'est un débat que j'avais ce matin avec mon chat. Ce qui est de la macroéconomie écologique à la microéconomie, on est là à stigmatiser les autres. Mmh. Ah, toi, tu fais du stream, t'es en train de polluer. Toi, ouais, tu fais ça, t'es en train de polluer. Toi, tu utilises des couches, t'as eu des enfants, ouais, t'es en train de polluer. Et même à soi-même, oh là là, je fais ça, c'est pas bien. Et derrière, on va avoir un comportement complètement absurde sur autre chose. Il faut à la fois garder son calme et en même temps paniquer et regarder l'ensemble de nos comportements. Le problème est un problème mondialisé, mondial, qui concerne toute la planète. On peut pas dire que la pollution s'arrêtera à telle ou telle frontière. Et dans nos comportements, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on va avoir un bon comportement sur certaines choses on va pas avoir un comportement ou des habitudes qui sont vraiment... Donc il faut envisager ça de manière globale, toujours.
Ce qui est affreux, c'est que ce thème, on pourrait celui-ci aussi. Mm-hmm. Alors, c'est pas trois heures qui pourraient l'épuiser, c'est pas trois jours.
C'est le débat de notre génération.
Je vois plein de questions, de sous-questions qui sont... Mais moi, je voudrais quand même avoir ton avis là-dessus, Camille. C'est Hannibal Lecter dans le chat, qui n'est pas le vrai Hannibal Lecter a priori, mais qui dit, et ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent dans le chat, qui m'interpelle, moi en tant que papa, et qui pourrait avoir un troisième enfant, par exemple. Et je vois Hannibal Lecter qui dit la meilleure solution, est-ce que ce serait pas de réfléchir à la question de la démographie? Tout à l'heure, Michael me parlait du poids carbone du fait d'avoir des enfants. Alors Camille, ah ouais, toi qui réfléchis
mais
beaucoup à ces questions.
Vous me posez des questions, j'ai envie de vous en parler pendant des heures. Non
mais ça
tu
c'est
tu comprends la mécanique du stream chez Samuel.
Oh là là. Si je vous donne
maintenant,
les
Camille,
arguments.
Camille, comprends pourquoi une émission sur Twitch ça peut durer des heures et des
mais
heures.
Mais oui.
Des heures.
Non mais je vous donne les pistes et puis vous creuserez, ouais, on pourra creuser ça ensemble d'ailleurs. Très 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 rapidement. Sur, par exemple, la Chine, en effet, il faut prendre en compte nos émissions importées. C'est-à-dire que quand on dit qu'en France, un Français émet en moyenne 5 tonnes de CO2 par Français par an, quand on prend en compte les émissions importées, ça monte jusqu'à au moins 10 tonnes. Donc, ouais, en fait, pour qui produit aujourd'hui la Chine? Qui a des iPhones? Qui a des habits qui viennent de là-bas? Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Quand on remet ensuite les chiffres, en effet, par habitant, un Chinois aujourd'hui par habitant pollue beaucoup moins qu'un Français aujourd'hui par habitant moyen. Un Chinois moyen pollue moins qu'un Français moyen. Et il y a aussi les émissions historiques. C'est-à-dire qu'on commence même à avoir ce débat-là d'un point de vue... Enfin, il y a des gens qui disent « Oui, mais alors l'Afrique, ça y est, ils vont commencer à se développer et tout. Ouais. » L'Afrique, en tant que continent, historiquement, c'est 4% des émissions mondiales.
C'est que dalle.
Donc, à un moment donné, calmons-nous. Enfin, il y a aussi la responsabilité historique qu'on a là-dedans. Et c'est super intéressant. Je m'arrête là-dessus pour pas que ce soit trop long. Et je réponds à ta question après. C'est les débats qui vont avoir lieu à la COP. C'est le débat de cette COP, c'est ce qu'on appelle les loss and damages, c'est les pertes et dommages. En gros, c'est quelle responsabilité nous, on a, pays développés. On avait promis 100 milliards par an à ces pays qu'on appelle en développement parce que c'est ceux qui sont historiquement le moins responsables. Mais c'est les premiers qui payent les conséquences du dérèglement climatique. Là, on parle au Pakistan, c'est quand même un tiers du pays qui était sous les eaux. On n'a vraiment pas beaucoup parlé dans nos médias français et européens. Donc, Voilà, il y a cette question de justice, on en parlait tout à l'heure.
On les a pas donné d'ailleurs, je crois.
On les a absolument pas donné, on est très en retard et c'est pour ça que ce sera le gros sujet de cette COP. C'est dire, et les amis, comment est-ce que. Enfin, vous êtes bien mignons. C'est en mode, on s'est amusé, désolé, on se rend compte que c'est pas ouf en fait. On a quand même condamné l'humanité. On vous invite à arrêter, mais en même temps, on a créé des inégalités telles, et surtout aussi, là-dessus, c'est l'histoire coloniale, c'est-à-dire que on s'est développé sur vos ressources.
Ouais, bah oui.
Donc,
ouais, ouais.
Je rappelle. Sur la question de... Je vous invite à creuser ça, on pourra en parler vraiment et par longtemps, je vous donne un compte Insta qui s'appelle Histoire Crépu, qui est tenu par Sumboy et qui parle beaucoup de cette écologie décoloniale et qui décrypte ça, c'est un historien, il vient d'histoire, et il décrypte vachement bien de manière hyper factuelle et calme et tout, et il est trop stylé. Pour parler de la question de la démographie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, très concrètement, prenons l'agriculture. On dit, bon, on ne va pas pouvoir nourrir autant de gens. Ouais. Il y a un rapport de l'IDRI qui est sorti et qui dit que, qui est un think tank, qui dit qu'on pourrait nourrir l'Europe aujourd'hui, ou même, enfin, s'il parle juste de l'Europe, mais en agroécologie. C'est-à-dire qu'on aurait les capacités aujourd'hui, sans intrants chimiques, etc., de nourrir tout le monde. Donc en fait, la question, ce n'est pas tant on a un gâteau donné, comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de gens assis à la table, ouais, mais plutôt on a un gâteau donné, ça c'est un fait, on a un certain nombre de convives, comment est-ce qu'on le découpe ? Et c'est même une question philosophique là-dessus. Sur la démographie, il y a aussi beaucoup de rôles un peu racistes qui est de dire bah, on va empêcher ceux qui aujourd'hui font le plus d'enfants, mais ce qui serait intéressant, c'est de se dire qui aujourd'hui pollue le plus. Et en fait, c'est nous, dans nos pays qu'on devrait poser la question d'avoir moins d'enfants. Mais moi, ce qui m'intéresse sur ce débat, c'est plus ce débat philosophique. Et je, un peu à contrario de plein de discours écolo, je trouve ça très triste. Et je trouve que c'est un peu... quand on positionne le débat d'un point de vue du respect évidemment des femmes, de leur choix, c'est leur corps, leur choix, si on parle d'un point de vue de quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants et qui s'empêcherait de le faire pour des raisons écologiques,
ouais,
on parle de ça dans ce cadre-là.
C'est ça. Ouais.
Combien d'enfants sont nés dans des guerres ? Combien d'enfants sont nés sous des bombes ? Combien d'enfants sont nés dans un demain incertain ? C'est le principe même de la vie que de donner naissance dans un demain dont on ne sait pas de quoi il sera fait. Mmh. Et c'est là où c'est beau, c'est parce que ça nous donne une responsabilité face à ce qu'on va laisser, face à ce qui va se passer. Et je trouve que c'est intimement le lien le plus fort qu'on peut avoir sur le futur, les générations d'après, le monde de demain, tous ces grands mots-là. Donc non seulement moi je trouve que décider de ne pas faire d'enfants ou condamner ceux qu'en font sur ce principe-là, c'est la démission de nos conditions d'humain de le faire, et que ça nous lie à ça, et que il faut pas seulement se poser la question de quelle terre je laisse à mes enfants, mais aussi de quel enfant on va laisser à nos terres. Et si on est capable de bien les éduquer, de leur donner les clés tout de suite d'actions concrètes sur le monde, ça peut aussi nous donner beaucoup d'espoir à ce qui va se passer après.
Je suis content parce qu'il y a plein de gens dans le chat qui me disent, tu vois Samuel, tu veux pas avoir de troisième enfant? Et à la lumière de ce que Camille vient de dire, ouais, je dis, eh si, peut-être.
Il t'en faut quatre.
Mais s'il est passionnant ce débat, Camille, moi, ouais, j'avais jamais entendu ces termes, ouais, sur
cette question. Mais tu vois, c'est passionnant et c'est, je pense que c'est les questions fondamentales là dont on parle. Alors, désolé pour revenir à la question et au sujet de base, ce n'est pas du tout apparu dans cette histoire de plan de sobriété du gouvernement. C'est-à-dire que ça, c'est les questions de l'humanité, les questions qu'on se pose, notre responsabilité et notre empreinte à tous, et comment on arrive à quand même arriver à continuer à exister sans tous mourir, quoi. Et je n'ai pas du tout senti ça dans ce qui a été présenté hier. On s'adapte à un contexte énergétique, mais on évite ces questions fondamentales. En tout cas, je n'ai pas senti ça dans ce qu'on dit Elisabeth Borne et tous les ministres. Et du coup, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu es contente que les sujets soient posés ? Parce que chaque tonne compte et qu'il faut... en fait, si on réduit notre consommation parce qu'il y a un contexte énergétique, ben, en fait, ça fera du bien à la planète, donc tant mieux. Ou est-ce que tu regrettes que des vrais sujets de fond ne soient pas posés ?
Les deux, l'un exclut pas l'autre, c'est-à-dire que ça ouvre une fenêtre d'Overton, ce qu'on appelle dans le débat, qui est de dire, bah, en fait, avant, on se moquait de nous quand on parlait de sobriété, on devait juste se battre pour dire la question de la sobriété va être importante. Là, on se bat maintenant sur la sémantique, dire, ok, on parle de sobriété, ok, cool, allez, ça c'est bon. Maintenant, juste, la sobriété, en fait, c'est pas, c'est la fin de l'abondance, ok, mais la fin de l'abondance pour qui ? De quelle abondance on parle ? Donc, on avance un peu déjà dans le débat. Je pense que la définition de la sobriété par le gouvernement est vraiment pas la bonne. Elle est très éloignée de celle que pose le GIEC, qui est de consommer moins, produire moins, à réduire. C'est d'abord l'urgence. Mais en même temps, ça permet d'avoir ces débats-là. Et avant, on les avait pas, quoi. Franchement,
ouais, c'est ça.
Parler de sobriété, c'est hyper chiant comme mot. Tu vois, sobriété décroissance, c'était sur la matinale de France Inter. J'étais allée l'année dernière. La question de la Salamé, c'était de dire, mais vous êtes marrant avec décroissance, mais elle faisait l'avocat du diable. Mais elle disait, mais qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui veut gagner de l'argent ? C'est inaudible la décroissance. Là, j'étais invitée avec un économiste, Éloi Laurent, où on a eu pendant 20 minutes des questions sur « Ok, qu'est-ce que ça serait concrètement ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ?» Donc en fait, au moins, on n'avance pas dans les faits, mais dans les idées, et on sait que souvent, les faits sont précédés d'idées.
Moi, je suis d'accord. C'est une première étape, mais il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est le souhait, et même sur des questions philosophiques et presque existentielles, quand je parlais tout à l'heure de révolution, c'est une révolution aussi. La décroissance ne peut pas s'accompagner, ne peut pas exister si on ne revoit pas fondamentalement même notre rôle, pourquoi on est là et quels sont les marqueurs du succès d'une vie. Aujourd'hui, on marque le succès d'un pays avec son PIB. Il faut trouver d'autres marqueurs. On peut pas juste dire il faut décroître. Je pense que ça passera jamais.
Moi, j'ai une question vraiment pour toi, Jérôme, parce que toi, tu animes avec d'autres une chaîne sur la tech. Voilà, tu présentes plein de nouveaux produits, les dernières sorties, les nouvelles technologies. Donc, évidemment, tout ça est consommateur d'énergie. Il faut l'énergie pour qui est consommée et pour les fabriquer aussi. Est-ce que au quotidien, dans tes streams ou sur YouTube, est-ce que la problématique qu'on évoque, est-ce qu'elle est déjà présente ? Est-ce que tu l'as intégrée ou pas ?
Nous, c'est vrai que la prise de conscience, elle date quand même d'un certain nombre d'années. Ouais. Nous, depuis 2 ans, on essaye tant bien que mal. On a un label qui s'appelle Take Your Time, qui n'est pas de l'écologie, qui est vraiment d'arrêter de gâcher même son temps. C'est-à-dire que nous, on estime qu'on peut avoir beaucoup plus de satisfaction à maîtriser une tech qu'on a déjà, un ordinateur qu'on a déjà, d'apprendre des nouveaux raccourcis clavier, d'apprendre des nouvelles fonctions. La satisfaction humaine de maîtriser une machine,
le dernier produit.
Elle est plus forte que le plaisir fugace qu'on a à répondre au marketing d'une marque qui nous a dit « Vous serez plus heureux parce que vous achetez un nouveau produit. »
Non, c'est intéressant.
Alors, on est face à nos contradictions aussi. Oui, on est quand même une chaîne de tech, on doit présenter des nouveautés parce qu'il y a toujours des cycles d'acheteurs. Nous, ce qu'on essaye juste de dire, c'est diminuer les cycles. Bien sûr que on va avoir le fameux truc, il faudrait pas que les constructeurs sortent des produits tous les ans. C'est pas une décision qu'on peut demander aux entreprises. Il faudrait que les États statuent là-dessus. Le débat là-dessus. Une entreprise, si elle le fait, elle se fait flinguer par toutes les autres. Rattraper et bousiller.
Il y a des modèles alternatifs qui existent. Il y a mais c'est des niches.
On en a parlé, on a testé le Fairphone. D'abord, premier truc, ça intéresse personne. On a fait très peu de jeux sur des trucs comme ça. Dès qu'on parle d'écologie, on nous regarde pas. Donc, on voit déjà un premier problème de la tech et de l'écologie. Ouais. C'est dur d'intéresser les gens vraiment à ça. Parce qu'ils ont beau nous dire et nous pointer du doigt, vous polluez avec la tech, dès qu'on leur parle d'un produit alternatif qui serait moins polluant, ils disent « Ah non, moi je préfère un produit moins cher et plus performant. »
Et qui marchera pour toutes les applis avec mes potes ou ma famille.
Donc,
je viens de comprendre le jeu de mots « take your time ».«
Take your time ».
Parce qu'en fait, quelqu'un l'a écrit dans le chat et moi je dis « take your time ». Ah ouais, c'est bien. Et en fait, je viens de comprendre parce que quelqu'un l'a écrit. Merci beaucoup.
Prenez votre temps avec la tech.
Mais en tout cas, les gens me disent que effectivement, dans tes programmes, eh bien, tu mets ça en avant.
On met ça en avant, on essaie de le mettre de plus en plus. On essaye de mélanger, on va dire, du contenu tech traditionnel qui attire des vues et d'avoir une virgule take your time. Quand on va présenter le nouvel iPhone, on va essayer de terminer en disant si vous avez le 11, le 12, le 13, prenez pas le 14. Ça sert à rien. Vous pouvez être encore très heureux avec le 11. Regardez, on va vous montrer comment faire une super photo en cadrage composition. C'est pas parce qu'il y a 48 mégapixels de plus que vous allez faire des photos mieux.
Mais ce n'est pas le message marketing dominant. Le message de la publicité, le message de la sortie permanente de nouveaux objets.
D'ailleurs, dans les associations, les ONG environnement, qui ont été consultées par les médias, notamment Réseau Climat, je me rappelle plus le nom exact, suite aux propositions du gouvernement, moi j'en ai reçu une représentante sur France Info, elle a dit par exemple, il faut aller beaucoup plus loin, et par exemple limiter la publicité, que les États limitent la publicité pour limiter en fait l'incitation à consommer, espèce de
ouais.
Et donc on est sur ce débat-là aussi, parce que
Sur le modèle qui est promu, au fait, enfin tu vois, de la nouveauté, ça fait vendre. Enfin, tu vois,
le problème là, on retombe encore. Parce que c'est si pas toi, en attaquant.
Tu vois, Jérôme, si je prends ton programme, si toi tu expliques aux gens qu'il faut parfois se contenter d'un modèle un peu plus ancien, qui peut encore faire. Mais qu'en même temps, le viewer, il est bombardé de publicité pour acheter le dernier truc, tu prêches dans le désert un peu.
Alors, oui,
sur YouTube,
mais
il y a
encore.
Beaucoup de pubs hein, pour des grosses personnes.
Mais encore une fois, il faut aussi traiter les problèmes de manière globale. Si tu ne t'attaques que à la pub et la publicité et au marketing, t'as pas résolu le problème parce que fondamentalement on est programmé pour plus de puissance et que la satisfaction vient de plus de puissance. Et il y a une chose, et c'est là où la tech est hyper intéressante.
On peut se déprogrammer. Hein.
Mais voilà, il va falloir se déprogrammer. Et une chose intéressante qui s'est passée, désolé de reciter Apple, on va dire je suis Apple fanboy, mais aujourd'hui il y a un virage dans la tech au niveau du cœur même de la tech, qui sont les processeurs. Mmh. On commence à ne plus mesurer les performances d'un processeur uniquement à leur puissance, mais à leur efficience sur l'utilisation de l'énergie pour produire de la puissance. Les fameux processeurs M1 dans les nouveaux Mac, qui chauffent beaucoup moins, donc on a moins besoin du ventilo, qui consomment beaucoup moins,
voilà,
donc la
durable,
batterie dure plus longtemps. Ouais. Et tu vois, c'est là où la tech peut être un truc assez formidable, c'est que les smartphones nous font beaucoup évoluer parce qu'ils ont des batteries. Les batteries, on veut que l'énergie, on en consomme le moins possible. Et la technologie extirpée des portables, on la retrouve maintenant sur des ordinateurs qu'on va brancher sur le secteur et qui consommeront moins parce qu'ils ont eu l'énergie du mobile. C'est là où, après, j'assume tout à fait, la tech, c'est ultra polluant, c'est des terres rares, c'est des batteries et c'est des usages très polluants. Mais il y a aussi des choses intéressantes dedans.
Mais je trouve que c'est un truc, comme tu dis...
Il y a John qui dit, j'ai l'habitude de cette chaîne, j'ai beau détester Apple, il faut bien reconnaître que le M1 est une perte d'efficience.
Voilà, et l'efficience devient, quand je parlais tout à l'heure de la mesure du PIB, est-ce qu'on pourrait pas inventer, est-ce que les économistes pourraient pas inventer une mesure d'efficience pour les pays ? Qui mélangerait l'utilisation finalement de l'énergie pour arriver à une performance plutôt que de mesurer la performance pure.
Je vais vous frustrer.
Ben, en technologie, c'est la même chose.
Parce que
on est super en retard,
c'est débile. Non, ça veut rien dire sur Twitch. En fait, moi, une des raisons pour lesquelles j'aime ce média, c'est que, et Camille, tu l'as bien compris, c'est un média où on pouvait prendre le temps.
Ouais, c'est trop
et
bien.
Contrairement aux médias traditionnels où on devait, pour des raisons de rythme, d'émission après. On doit rendre l'antenne à un moment, et ici il n'y a pas d'antenne derrière, c'est notre chaîne, et donc on peut prendre le temps. Là par exemple, on a une demi-heure d'introduction, là il est 22h17, donc ça veut, si je ne dis pas de bêtises, ça fait combien, 1h45 qu'on discute, c'est ça ? Enfin je veux dire qu'on débat après l'introduction, donc 1h45 pour deux thèmes. Quel est le média qui pourrait nous laisser... Et encore, on s'autorégule, parce qu'en fait... On a bien vu qu'il y a plein de questions dans le chat qui pouvaient nous relancer sur plein de choses. Et on se réfrène parce qu'on sait qu'il y a encore trois thèmes. On verra si on pourra les faire. Par exemple, là, je vais vous frustrer. Je reviens un peu en arrière et je vais vous demander de ne pas réagir parce que c'est impossible.
Ça marche, on se tait.
Mais pourtant, là, il y a Mathéus qui m'envoie un message sur notre débat sur le Qatar tout à l'heure. Et c'est vachement intéressant parce que je n'ai pas creusé cette actu. Moi, je vais la creuser. Je me permets un message par ici au cas où. Je trouve qu'on analyse ce qui se passe autour du Qatar avec des yeux occidentaux. Les médias arabophones, eux, trouvent que notre approche du Qatar 2022 est raciste, anti-arabe, condescendante. C'est vachement intéressant.
C'est hyper intéressant.
On va pas relancer le débat parce qu'on reviendra en arrière. Mais on voit bien, en fait, que si on, avec chacun des thèmes là qu'on évoque pourrait nous faire 5 heures de débat.
C'est vrai.
Quoi. Donc, même sur un. C'est fascinant parce que même sur un média qui prend le temps, on peut avoir un peu de frustration. Alors, maintenant, mettez-vous dans ma peau, parfois le matin sur France Info, où j'ai 3 minutes 30 pour interviewer quelqu'un.
Le prochain Z Event, tu fais un plateau de 48 heures de débat.
Je pourrais, moi.
Avec des petites pauses, hein, quand même, hein, mais juste pour le pipi. Hein,
mais bon, quelqu'un dans le chat sur notre débat là, disait, mais la tech, ça peut aussi servir le combat écologique. Et c'est vrai. Mm-hmm. La preuve, c'est que bon, là, par exemple, on fait un stream avec des outils qui consomment, qui polluent. Hein. On est entouré d'ordinateurs, on est tous assez technophiles ici. Même le fait de faire ce stream consomme de l'énergie. Et en même temps, on porte une discussion
qui est de nature à changer les choses.
Voilà.
Et
voilà.
Comment tu rationalises ça et comment tu peux chiffrer les tels. Enfin, impossible.
Et pour clôturer sur la tech, moi, c'est bien évidemment un débat que j'ai dans ma tête tous les matins. Tu peux pas être le chevalier blanc en ayant un slip propre. Non, si t'as pas un slip propre. Et on n'a pas le slip propre. Bien évidemment, je suis à la fois jugé parti, mais c'est aussi intéressant. Parce que ça me permet d'avoir un jugement plus nuancé. Les gens ont besoin de technologie, utilisent la technologie. Comment faire pour faire bouger les lignes là-dedans? Comment faire? Et je peux vous dire, on n'est pas beaucoup à essayer de porter un message différent.
Oui, parce que tu me disais que quand tu en parlais, c'était pas là que tu faisais des
évidences. Et puis les gens regardent pas. Quand on a testé même le Fairphone, on a fait quand même des vues, mais ça intéresse pas énormément les gens.
Peut-être plus demain. Peut-être. Je veux dire, peut-être que c'est aussi un.
Ouais, mais ça a posé un débat intéressant. Est-ce qu'on achètera un téléphone moins polluant, sachant que je ne veux pas rentrer dans le débat, mais Fairphone a sorti aussi des écouteurs qui sans fil, qui sont quand même un produit très difficile à réparer. Enfin bref, mais est-ce qu'on va acheter un produit moins performant juste parce qu'il est moins polluant? Enfin, c'est des débats.
Il y a un label maintenant là sur les dans les magasins sur les appareils électroniques pour savoir
la réparabilité.
Oui, mais voilà. Est-ce que les gens regardent ça avant de par exemple d'acheter un nouveau téléphone?
Ça commence. Mais là, c'est notre responsabilité aussi de nous qui parlons de la tech, de les sensibiliser. Nous, on teste des smartphones. Nous, maintenant, la question obligatoire, c'est combien d'années de mise à jour et combien d'années de mise à jour de sécurité? C'est une question qu'on ne se posait pas il y a trois ans.
Le garder, quoi.
Et voilà. Et nous, aujourd'hui, tout smartphone qui ne propose pas plus de 4 ans, on va dire, de mise à jour de son OS et au moins 6 ans de mise à jour sécurité...
Vous en parlez pas.
Il faudrait qu'on n'en parle pas. Il faut qu'on évolue aussi.
Je vous propose de passer au troisième thème, voilà, parce que je ne voudrais pas qu'on passe à côté de celui-ci quand même, qui est MeToo. Alors pourquoi MeToo? Tout simplement parce que c'est un anniversaire cette semaine. Merci Mathieu qui nous met le troisième thème là, qui est là. Cette semaine, on a commémoré les 5 ans, le début du mouvement MeToo. Ça a commencé avec l'affaire Harvey Weinstein, qui était un producteur de cinéma, c'est ça, américain, hein?
Ouais.
Ça a commencé comme ça. Alors c'est 5 ans de débats, de progrès peut-être, de débats politiques, sociétaux, dans tous les pays du monde. Et puis en France, qui a pris une couleur très politique ces dernières semaines, avec les affaires qui ont touché certains partis politiques, notamment l'affaire Quatennens, qui a touché donc la France Insoumise, et l'affaire Julien Bayou, qui a touché le parti Europe Écologie Les Verts. Donc là, il y a deux axes dans notre discussion de ce soir. C'est quel bilan de 5 ans de mouvement MeToo, voilà, au niveau dans un pays comme la France, par exemple. Et puis peut-être chacun individuellement aussi, peut-être. Et puis l'affaire Julien Bayou, qui est une affaire avec un feuilleton assez intéressant, qui pose plein de questions, et qui, pour partie, résume aussi une partie du débat que l'événement de ce mouvement, de ce hashtag MeToo a posé, quoi.
Alors, Mickaël. En fait, je vois ça, ça me fait penser à ce que tu viens de dire sur le fait qu'on pourrait passer vraiment beaucoup de temps sur chaque thème.
Bah là, on pourrait passer 5
heures. Mais ce sujet est l'autre débat fondamental qui a lieu en ce moment, le rapport de femmes.
Tu veux dire qu'il y a l'environnement et il y a ça.
Moi, je le vois dans les débats de Rédac, hein, ou HuffPost, ou avec d'autres confrères. Quand on ne parle pas d'environnement, ouais, d'écologie, on parle des rapports des hommes abusifs envers les femmes et comment on essaye de déconstruire ça.
Comment on doit se comporter.
Et voilà.
Bah, moi, je peux te dire que le matin sur France Info, par exemple, je pense que c'est la question. Hors actu chaude, c'est-à-dire le truc dont on doit parler tout de suite, nos débats entre journalistes off. C'est le premier débat, c'est celui-là.
Mais pareil. Oui. Et c'est
parce que notamment pour les gens de notre génération, enfin, je suis un peu plus âgé que toi, je pense, j'ai 51 ans.
J'ai 36.
Oui, donc un peu beaucoup même. Et ben pour les garçons de notre génération, ben pour le coup, il y a une déconstruction à faire. Enfin, en tout cas, il y a un questionnement qui est déstabilisant parce qu'on n'a pas appris comme ça, avec ses valeurs, avec ses messages. Donc, pour le coup, on en parle beaucoup.
Et ça, je l'ai vu quasiment en direct, parce que donc, je travaillais au Monde à ce moment-là.
Ouais.
Et je travaillais dans la rédaction web du Monde, qui est composée de gens qui ont entre 25 et 40 ans. On voit MeToo arriver, on traite les dénonciations sur Harvey Weinstein, on traite les femmes qui prennent la parole, l'actrice Alyssa Milano qui lance le mouvement MeToo. En France, il y a Balance ton porc. Il y a on traite tout ça. Et pour nous, ça apparaît vraiment comme des voix s'élèvent et des comportements toxiques et même, alors, répréhensibles pénalement, mais toutes les mauvais comportements des hommes envers les femmes. Et après, il y a d'autres sujets aussi, mais c'est ce sujet-là. On sent que c'est quelque chose de vraiment de, je sais pas, de quelque chose est en train de basculer. Qu'il y a des questions qui s'étaient déjà posées avec l'affaire Strauss-Kahn, par exemple. Genre, ah tiens, on découvre, c'était avant, hein, c'était en 2011 ou en 2010, je sais plus. Ah tiens, un homme politique qui se comporte d'une manière mais horrible, qui a violé quelqu'un. Qu'est-ce qui doit changer? Je pense qu'il y a eu ce débat là. Et MeToo arrive, et là on sent qu'il y a des prises de parole dans tous les sens. On sent qu'il y a.
Libération de la parole.
Hein. Ouais, et on sent que ça devient un grand sujet. Et au Monde, une institution vénérable, il y a aussi des journalistes plus âgés.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a une autre génération. Je ne sais pas si c'est la tienne, mais il y a aussi d'autres générations encore. Et on a eu des débats de rédaction et même des. En gros, des circuits parallèles. Nous, au Monde, par exemple, on a eu la tribune de Catherine Deneuve.
Je me rappelle très bien.
Qui a été publié et qui regrettait en fait les problèmes liés à MeToo de dénonciation abusive. Et en
disant
gros,
qu'il n'y avait plus de séduction notamment.
Ouais,
c'est ça.
Et donc, séduire, draguer,
catastrophique, ouais. Ouais. Et donc, c'est le droit d'être importuné. Elle revendiquait le droit d'être importuné, le droit d'être un peu embêté dans la rue parce que ça flattait.
Ouais, c'est la séduction à la française et c'est quand même notre charme aussi. Et donc, nous, on avait toute une génération. Qui est la mienne, où on se dit oh là là, il y a une avancée majeure qui est en train de se. Et ça porte des sujets dont on parle encore aujourd'hui et je pense dont on parlera encore dans longtemps.
Et des plus âgés, c'est ça qui...
bah, c'est-à-dire qu'on voyait aussi, on avait des discussions de rédac et même parfois des engueulades ou tu sais, un peu des positions de tranchées, quoi. Genre, on voyait qu'il y avait aussi des personnes qui disaient non, mais c'est important que des personnes qui sont contre MeToo ou qui sont contre les dérives de MeToo, de dénonciation dans tous les sens, qui sont parfois non fondées ou qui peuvent pousser. Enfin, qui sont violentes aussi pour tout un tas de personnes. En fait, il y a tout de suite eu une contre-réaction, mais très française, de « attention, ça peut aller trop loin ». Et ça, c'est encore le débat aujourd'hui. C'est encore la manière... et je pense que c'est un cadre qui est extrêmement important pour notre humanité, dans le sens où ça peut faire améliorer les choses, que les femmes ne soient pas victimes des hommes. Et c'est, après, il y a peut-être d'autres manières de lire les choses. Mais on a eu quand même ce débat français de attention, et je ne sais pas si dans les autres pays c'était comme ça, mais par rapport aux États-Unis où il y avait vraiment, c'est de là que ça vient et c'est là que beaucoup d'évolutions sociales ont lieu aussi. Nous en France, on a eu aussi ces questions de ah, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin, est-ce que... Et il y a par ailleurs aussi parfois des dénonciations contre des comportements masculins, mais en fait qui n'avaient pas lieu, qui aussi provoquaient des tas de débats et de problématiques. Et je trouve que. On n'en est pas sorti, que les affaires politiques.
On est même en plein dedans. Là.
On est même en plein dedans. Et que...
L'affaire Bayou, c'est ça.
Ouais, mais qu'il faut pas lâcher le truc parce que le fond des choses, c'est que ça est mieux pour les femmes qui ont été victimes de mauvais comportements.
Jérôme, Camille, qui veut sur les 50 MeToo, de où on en est aujourd'hui, ben, Jérôme.
Bah déjà, de toute façon, sur le MeToo, c'est toujours délicat d'en parler quand on est un homme. Ça n'empêche pas d'en parler quand on est un homme, mais on ne pourra jamais comprendre. Complètement et vivre ce que c'est effectivement le regard, le côté prédateur masculin que vivent les femmes au quotidien. Donc ça va même au-delà d'affaires MeToo. Ça n'empêche pas d'en parler, mais il faut toujours prendre un peu un pas sur le côté quand en tant qu'homme on en parle, parce que c'est comme ça. Après. Là où je te suis tout à fait, et je rejoins un peu le débat écologiste, c'est des changements de civilisation profonds, indispensables, qu'on a trop retardés, sous des prétextes de tradition, de galanterie. On a maintenu un état de fait qui... Il faut jamais remettre en cause nos anciens. Les anciens avaient leur réalité, les juger, c'est une faute historique majeure. Que de dire ils avaient tort et nous on a raison, on est supérieur à eux, c'est faux. D'abord on est tous dans le même train.
Tu veux pas juger des comportements passés avec les valeurs d'aujourd'hui?
Non, un historien te le dira toujours. De juger avec ta morale d'aujourd'hui, la morale de nos anciens, en disant nous on est plus évolué qu'eux, c'est n'avoir rien compris à l'histoire.
Sur côté, et à ça l'humanité. Sert à rien parce que c'est le maintenant qu'il faut.
Et voilà, exactement. Tout découle de tout. On porte les responsabilités du futur, mais du passé aussi, et tout est interdépendant. Enfin, moi, c'est ma façon de voir. Bref, tout ça pour dire, enfin ce débat a lieu. Nous, on vient d'une génération, on va dire, un petit peu intermédiaire,
ouais.
où on nous a quand même appris la galanterie. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était bien.
Et le respect des femmes.
Et voilà, le respect des femmes, jusqu'au moment où je réalise, mais pourquoi je fais la différence ? Pourquoi je ne suis pas poli avec tout le monde, en fait ? La galanterie ne doit pas exister. On doit être poli avec tout le monde, mais on ne doit pas stigmatiser. Au même titre qu'on ne doit pas stigmatiser une personne pour sa croyance, pour sa couleur de peau, pour sa sexualité, pour son genre... on doit stigmatiser personne, en fait. On ne doit pas faire de différence. Et ce que je trouve intéressant dans le discours MeToo, et on va dire les outrances du discours MeToo, parce que ça provoque des débats, oui, ça arrive encore aux hommes, excuse-moi, mais va voir les sondages. Bref, toutes les outrances autour de ça, c'est que, au moins, là, on est en train de sortir des tas d'inconscients et de merde, on est en train de les soulever.
On déconstruit, ouais.
Alors, on est en train de déconstruire tout un schéma que beaucoup de petits garçons ont leur imprimé dans la tête. Un mode prédateur, un Yann Solo qui force la princesse Léa, et c'est très bien. On a toute une déconstruction à voir. Et nous, on est une génération assez intéressante parce que on a été élevé par des gens pour qui les valeurs viriles, qui avaient fait la guerre, etc., étaient hyper importantes et dans le rapport à la femme. On a eu des modèles, Yann Solo, etc., qui étaient des modèles virilisants. Mais il y avait un début de discours aussi de la prise de pouvoir de la femme, et notamment dans le rapport sexuel, etc. Donc, nous, notre génération, on a des choses à déconstruire sur ce qu'on nous a appris. Mais je pense que notre génération a commencé à élever ces petits garçons.
Mais on est pris dans une accélération du débat, notre génération à nous, et c'est tant mieux d'ailleurs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un début de travail.
Il y a eu un début quand même.
Il y a quelqu'un qui te salue, Jérôme, c'est Ricardo, dans le chat, Ricardine par exemple, qui dit « Oui, Jérôme, bien dit, le féminisme est plus un principe d'égalité, d'éducation et de respect qu'autre chose. »
On nous a, il faut être honnête, les garçons, on nous a appris la prédation à l'école. C'est le tableau de chasse, c'est t'es pas un homme, puisque nous, notre sexualité, il faut la remettre
vrai,
en cause tous les jours.
C'était comme ça.
Hein. Je cite Dolto, c'est pas Dolto, bref.
Tu as raison de le dire.
J'essaie de faire le cultiver.
C'était comme ça. Enfin,
t'es pas un mec, si t'es pas un prédateur avec les femmes.
Alors on disait pas prédateur, on disait séducteur.
On disait
tombeur, et en fait, c'était ça, ouais. C'est la collection, quoi, là.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut d'urgence déconstruire dans la tête des petits garçons.
Aujourd'hui chez les jeunes français, pour parler que de notre pays, je crois que ça a changé, ça, ou je suis un peu naïf et optimiste.
Les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, oui, on peut se dire, c'est comme pour l'écologie, dans le sens où on se dit, c'est bon, tout le monde est faible, puis là, comme on se rend compte qu'il y a 30% de la population qui est encore climato-sceptique, donc en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on se dit forcément, on est une génération plus ouverte, etc. Quand on regarde même juste... on dit par exemple qu'on est une génération vachement déconstruite sur plein de sujets, mais on est aussi celle qui vote le plus à l'extrême droite, qui se construit à l'antithèse de ces valeurs, justement, d'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. Donc, il ne faut pas idéaliser non plus une génération qui arrive. Le travail n'est pas fait, il est encore vraiment à faire.
Les gens vont dans ton sens. Les gens disent, Sam, t'es un peu naïf.
C'est sûr, moi aussi, je suis très naïf.
Au niveau des jeunes, aujourd'hui, on n'est pas aussi avancé que tu le voudrais.
Non, malheureusement,
puis les chiffres de violence faites aux femmes sont toujours massifs et horribles.
Je crois que c'est une femme qui est tuée sous les coups de son conjoint tous les 3 jours. C'est pas des petits sujets. Et en fait, ce que je trouve intéressant sur ces débats qui ont lieu sur l'affaire Bayou, l'affaire Catane, c'est de dire que à la fois ça m'énerve la manière dont c'est traité médiatiquement comme un espèce de feuilleton un peu où on est en train de perdre une majorité des gens parce qu'on est en mode est-ce qu'il a pris son téléphone, est-ce que comment, et on rentre vraiment dans un truc avec entre guillemets de l'anecdotique, et on ne fait pas toujours le lien avec le plus général. On ne dézoome pas pour dire qu'est-ce que ça dit de nos rapports en femmes, qu'est-ce que ça vient questionner sur la justice aujourd'hui. Et je pense que le vrai débat, enfin en tout cas moi, ce qui m'intéresse vachement là-dedans, entre autres, mais parce qu'on peut, on pourrait partir dans tous les sens, mais c'est aussi se dire qu'est-ce que ça dit de nos systèmes judiciaires, parce que on entend beaucoup l'idée de dire ça va trop loin, par exemple sur l'affaire Bayou, c'est qu'est-ce que Sandrine Rousseau est allée raconter ça sur un plateau télé, ça se fait pas, en gros. C'est un peu ça qu'on entend quand même souvent dire, franchement c'est un peu trop loin. Mais Il y a, d'un point de vue théorique, où en effet, on aimerait bien que dans une société, les questions de conflit, eh ben, c'est pour ça qu'on a créé une justice, on les a hiérarchisées, on a dit certains vont au niveau du pénal et donc du coup bah, vont avoir des punitions, etc. On crée une instance qui s'appelle la justice, des juridictions avec des gens dont c'est le métier de prendre les plaintes des victimes, d'entendre les contradictions et ensuite de faire une enquête et ensuite de punir, de faire payer le prix au coupable de sa culpabilité. Ça, dans l'idée, c'est trop cool. Donc, en effet, d'un point de vue théorique, bah, on aimerait bien que ça se passe pas sur des plateaux télé, mais que ça se passe dans ces juridictions-là. Après, il y a la justice qui vient rencontrer le monde réel, la matérialité du monde. Et là, on se rend compte qu'en fait, eh ben, les policiers ne sont pas formés à recevoir les plaintes, qu'on a encore des comportements sexistes, même quand on est victime, où en fait, on nous dit « Mais comment est-ce que t'es habillée ? T'es vraiment sûre de ça ? T'étais pas un peu bourrée ? En même temps, tu l'as un peu allumée ? Oh, vous exagérez ?» Et donc, en fait, on est dans ce climat général qui fait que, du coup, on est obligé parfois de se substituer, enfin, pas de se substituer à la justice, c'est important de le dire, parce qu'on ne rend pas, de sentence à la fin, mais juste cet espace de libération de la parole, ouais. En fait, elle doit parfois, enfin, dans la société d'aujourd'hui, elle s'est obligée qu'elle sorte un peu des cadres là de la justice. Et il faut rappeler quand même, quand on dit, oui, mais du coup, sur une accusation, on parle de présomption d'innocence, ben là, c'est présomption de culpabilité. C'est une question aussi de la Salamé, il me semble, ouais, à Sandrine Rousseau sur la matinale. Elle disait, bah oui, mais du coup, vous dites, il a fait ça, et donc du coup, paf, d'un coup, il est condamné par tout le monde, il est cancel, quoi. Ouais. Sauf qu'en vrai, Julien Bayou a, de son fait, décidé de démissionner. Ce qui est un petit peu rigolo quand même, enfin, je trouve assez cocasse, c'est qu'il allait déjà démissionner parce qu'en fait, il était en position de cumul de mandat. À la fois, il était chef de parti, et en même temps, il était député. En fait, il ne pouvait pas, c'est dans les statuts de LV qu'il ne pouvait pas avoir les deux. Donc, il allait le faire. Donc, c'était même pas le débat. Et surtout...
Enfin, il démissionne sous une forme de pression quand même, hein. Bah, en fait, je pense pas qu'il aurait démissionné.
Mais il aurait dû, enfin, légalement, il devait le faire dans les semaines à venir.
Oui,
donc,
mais, Camille, bon, là-dessus, je pense qu'il n'aurait pas, pour être tout à fait clair, je pense qu'il n'aurait pas démissionné sans la pression venant pour partie de son parti dans cette affaire, quand même.
Dans les semaines à venir, il l'aurait fait nécessairement parce qu'il n'avait pas le droit de cumuler ses deux mandats à la fin de député.
Si on va plus loin, il y a une élection à ELV dans quelques semaines pour désigner un nouveau. Donc sur ce terrain-là, de toute façon, il aurait dû partir parce qu'il y a une élection qui arrivait.
Non, mais ça, on est d'accord.
Il serait sûrement pas parti sans l'affaire et sans la pression. Donc la question.
Mais ce que ça veut dire.
Pour reprendre ton argument, tous les partis qui ont créé des cellules d'écoute et d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, qui sont essentiellement des partis de gauche, disent ça. On les crée parce qu'en fait, la justice ne répond pas correctement. Les délais de traitement sont inimaginables, c'est très très long. Et là, on parle de délai, et surtout, la plupart des violences sexistes ou sexuelles faites aux femmes ne sont pas traitées, tout simplement. Le nombre de plaintes qui arrivent à être judiciarisées sont très très faibles.
Exactement.
Mais après, ça pose une autre question quand même, parce que c'est pas parce que ça, c'est satisfaisant intellectuellement de se dire la justice ne fait pas son travail, donc les partis créer des cellules pour écouter, pour libérer la parole, voire pour condamner, non pas judiciairement, mais écarter.
Mais c'est là que c'est différent.
Mais on donne des pouvoirs de justice à des cellules qui ne sont pas des cellules de justice, dont le fonctionnement n'est pas transparent. Même pour produire le mot même assez opaque, et qui parfois juge avant que ce soit jugé. Par exemple, Julien Bayou a expliqué, parce que j'essaye aussi de porter la parole de Julien Bayou, qui s'est défendu pour la première fois cette semaine. Il a donné une interview au Monde notamment, puis il est allé sur le plateau de France 5. Julien Bayou dit, moi j'ai voulu être entendu par cette cellule à 4 reprises, je n'ai jamais été entendu, et on m'a répondu c'est parce que l'enquête n'était pas terminée. Or, Sandrine Rousseau est allé parler sur le plateau de France 5 alors que l'enquête n'était pas terminée. Donc là, ça rejoint quand même la question qu'on doit se poser aussi. C'est un combat juste, celui contre les violences sexuelles et sexistes contre les femmes. Il est juste. Mais est-ce que parfois, il faut quand même poser la question, est-ce que parfois, il n'y a quand même pas des dérives?
Mais c'est, ce que vous dites tous les deux, c'est vraiment le sujet fondamental de MeToo qui est la justice est défaillante sur ces sujets-là.
Oui.
Et par ailleurs, les systèmes de valeurs masculins et la domination masculine dans beaucoup de cercles de pouvoir ne permettent pas de gérer efficacement ou d'une prise en compte globale des problèmes des violences faites aux femmes et des comportements problématiques. Et là, ce qui se passe avec MeToo, c'est les réseaux sociaux, Internet, les médias aussi, c'est... en fait, ça déborde, quoi. Ça déborde, il y a trop de trucs, on en a marre. On a une nouvelle caisse de résonance. Et en fait... Même si je comprends cette histoire de dérive, et il y en a eu aussi,
statistiquement, entre les fausses plaintes, soi-disant, et celles qui ne sont pas prises, il faut aussi repartir des faits. Et des faits, on en est loin de là.
Mais pourquoi je dis qu'il faut parler aussi des dérives? S'il y a des dérives, mais en l'occurrence, par exemple, on parle beaucoup du rôle de Sandrine Rousseau dans l'affaire Julien Bayou. S'il est important de parler des dérives, à supposer qu'il y ait des dérives, c'est pas ce que je dis ce soir, c'est qu'en fait, si dérive il y a par rapport à un combat, c'est que du coup, ça vient ternir ce combat. Ça vient porter le soupçon sur ce combat. C'est pour ça qu'il faut en parler aussi.
Je pense, ouais. C'est Annie Arnault qui le disait quand même juste ce matin, prix Nobel de littérature, hein, donc, et qui disait que de tout temps, on a accusé les féministes d'en faire trop, d'aller trop loin, même quand elles se battaient sur des choses qu'aujourd'hui, on considère comme absolument acquises et fondamentales. C'est le principe de toute vérité, de tout combat. Au début, on va d'abord l'ignorer, puis ensuite le moquer, enfin le combattre, et enfin le reconnaître comme ayant dû toujours exister dans la société. Donc il faut aussi se rendre compte qu'on est à un moment donné... important dans l'histoire et que qu'on soit d'accord ou pas avec Sandrine Rousseau, le traitement médiatique dont elle fait aujourd'hui l'objet, indépendamment de ses idées, mais qui symbolise le sexisme qu'on a, et on voit des articles, mais qui sont vraiment des accusations hyper fortes avec, c'est traité. L'article du Monde était extrêmement violent, peu importe ce qu'on pense d'elle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens et qui le disaient d'ailleurs. En disant, je suis pas d'accord avec cette idée, mais alors dis donc, on voit qu'elle fait encore l'objet d'un traitement sexiste et d'un harcèlement qui en suit. Il y a ce qu'on appelle je pense que toute révolution, elle a besoin, parfois aussi, peut-être qu'il y aura des écarts, mais ils sont tellement anecdotiques face au travail nécessaire qu'il y a à faire, que c'est ça qu'on doit saluer, c'est ça qu'on doit encourager. J'entends. Et ouais. Peut-être rappeler juste, et je finirai là-dessus, il y a plein de choses à dire, mais quand tu disais, on se substitue pas au juge. Qui, aujourd'hui, quel responsable politique a été condamné face à une accusation qui a lieu sur la place publique?
Ça va être dur d'en trouver.
Aucun. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est de se dire qu'en fait,
sachant que dans la justice,
en fait, il n'y a rien jamais qui a abouti. Donc en fait, c'est marrant de
là,
dire on est condamné.
Je suis
vraiment
d'accord avec Camille. J'entends le discours, il faut éviter les débordements, ça peut être néfaste au message, mais tu as raison. Regardons les chiffres. Enfin, je veux dire, la justice n'est pas parfaite, il y aura des erreurs. Mais en même temps, moi, je ne peux pas parler au niveau politique parce que les affaires dont vous parlez, je les maîtrise pas. Je n'ai pas beaucoup regardé les nouvelles la semaine dernière, mais je peux parler de mon milieu, le milieu des influenceurs, le milieu des youtubeurs. On a le fameux les youtubeurs dans la sauce, les streamers dans la sauce. Il y a eu une époque où quasiment toutes les deux semaines, il y avait une affaire et on n'entend plus rien.
Bien sûr.
Et les mecs repartent comme si ils laissent les trucs se tasser. On sent que leur avocat leur a dit tu fais pas de vagues, va prendre des vacances. Ils reviennent, ça restream derrière. Leur